Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 18h30.
De la francophonie programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct le mercredi 30 mars de 18 à 21h et en différé le jeudi 31 mars dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Patrick Simon. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Pour nous aider à demeurer libre, vous pouvez adhérer à notre association. La cotisation annuelle minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Nous adressons 3 exemplaires de chaque publication aux adhérents qui auront décidé de cotiser pour une somme supérieure à la redevance de télévision. Adressez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le souhaitez, vous pouvez intervenir au cours du libre journal de Serge de Bekech par téléphone au 46 51 00 85 ou par télécopieur au 46 51 21 82.
Bonsoir à tous. Le programme de ce soir, je vais vous le donner tout de suite parce que, comme ça, vous pourrez regarder la télévision si ça ne vous intéresse pas. Et je dois vous dire que la chose peut paraître curieuse en pleine Semaine Sainte, un mercredi de Semaine Sainte, mais c'est comme ça. On va dire beaucoup de mal des évêques. Donc je préviens les âmes sensibles, afin qu'elles ne soient pas engagées dans l'écoute forcée d'une émission qui pourrait les choquer. Donc nous parlerons avec M. Jacques Patrenaud d'un livre qu'il vient de publier et qui s'appelle « Lettres recommandées aux évêques en quête d'emploi ». Ensuite nous parlerons avec... nous aurons causé avec Jacques Houbard, auteur de « Dieu, César et les bourgeois », un livre que je vous avais déjà recommandé, pour lequel on avait déjà reçu Jacques Houbard, à la suite de la lecture duquel... j'ai demandé à Jacques Houbard de collaborer au libre journal de la France courtoise, qui est le journal imprimé que j'ai créé et que je dirige, et dont vous pouvez prendre connaissance en en demandant un spécimen, tout simplement à notre adresse, qui est le libre journal, 139 boulevard de Magenta, parce qu'il faut dire de Magenta, j'ai vérifié et Philippe avait raison. Alors je lui présente mes excuses. pour l'avoir rabroué l'autre jour, quand il voulait me faire dire de magenta, et je persistais à dire magenta faussement. Donc 139 boulevard de Magenta, vous pourrez prendre connaissance de ce numéro. Je me permets...
75-010.
Ah oui, 75-010 Paris, merci Jacques. Je me permets d'indiquer que le prochain numéro expose certaines révélations sur ce qui est en train de se passer en ce moment au sein du gouvernement français en ce qui concerne l'affaire algérienne. Et pour vous allécher, car je suis un commerçant, je vous dirais que le gouvernement français est en train de mettre sur pied un ensemble de dispositions administratives par décret qui vont permettre, qui devraient permettre l'accueil, j'espère que vous êtes assis, de 200 à 250 000 intellectuels algériens, comme ça s'appelle maintenant, d'ici la fin de l'année. Car M. Balladur et M. Pasqua sont absolument convaincus qu'il va y avoir une véritable, ce que l'administration appelle un afflux massif de migrants. Ça figure dans les documents officiels, confidentiels, dans les rapports qui sont donnés, qui sont établis par les services des différents monastères, ministères, quel lapsus curieux. Ces services s'emploient à l'heure actuelle à faciliter d'une part la délivrance de visa. Aujourd'hui, en ce moment, il est délivré 1000 visas par jour. D'autre part, M. Méhaignery a demandé à ses services d'étudier des procédures accélérées de naturalisation quasi automatique pour les citoyens algériens qui s'estimeraient menacés. M. De Charette, qui n'est pas le bon, fait recenser par les services du logement tous les logements disponibles qui pourraient accueillir des réfugiés, ce qu'il n'avait pas fait quand s'est posé la question des sans domicile fixe cet hiver. Madame Simone Veil a demandé à ses services d'étudier de très près des dispositions administratives particulières donnant accès aux réfugiés, permettant l'accès des réfugiés aux soins gratuits, d'une part, et d'autre part, aux aides du genre RMI, etc. Ce qui se passe est gravissime. Absolument personne n'en parle. Je crois qu'il y a eu un entrefilet dans Le Point, où il est vaguement fait allusion à ça, et un papier dans Globe, hebdo, qui est beaucoup plus complet, et qui expose que, évidemment, le comité international d'accueil d'aide aux réfugiés algériens, qui s'appelle le CIAS, je ne sais plus exactement ce que ça veut dire, enfin, ce comité trouve que vraiment, on n'en fait pas assez, le gouvernement n'en fait pas assez, et que, écrit l'auteur de cet article, qui s'appelle Fouad Zaou, le libéralisme avec lequel les visas sont distribués, je rappelle qu'il est distribué 1000 visas par jour, le libéralisme avec lequel ces visas sont distribués est relatif. Voilà, 1000 visas par jour, c'est relatif. J'indique également, mais tout ça vous le lirez dans le Libre Journal d'une façon beaucoup plus explicite et plus détaillée, que des ordres ont été donnés au préfet de suspendre immédiatement toutes les expulsions de ressortissants algériens clandestins, et de distribuer pratiquement sans discussion des cartes de séjour aux ressortissants algériens venus en France avec des visas touristiques et qui demandent des prolongations de leur autorisation de séjour en France. Les policiers spécialisés dans ces questions du ministère de l'Intérieur estiment aujourd'hui, je le répète, à un chiffre entre 200 et 250 000 le nombre des Algériens de nationalité algérienne, des binationaux qui devraient venir en France au cours de l'année 94. Et Globe a interrogé un personnage qui s'appelle Mohamed, anciennement Robert. Alors ce personnage était citoyen français. Il s'est mis au service du FLN pendant la guerre d'indépendance. Il a ensuite, en 62, il s'est installé en Algérie, où il a appris l'arabe, où il a acquis la nationalité algérienne, où il s'est converti à l'islam, où il s'est fait appeler Mohamed. Et il a vécu depuis 1962 dans ce pays. Et récemment, il a reçu avertissement du fils d'avoir retourné Fissa dans son douar d'origine. Et donc, il s'est présenté à l'ambassade pour demander son rapatriement. Et là, dit-il, c'est lui qui le dit, je le précise à l'intention de la police de la pensée qui écoute cette émission, il dit à Globe, deux points ouvrir les guillemets, on m'a reçu comme un bougnoul, point fermer les guillemets. Voilà, voilà, c'est quelques nouvelles de l'actualité franco-algérienne aujourd'hui. Alors tout ça, je répète que vous le lirez de façon abondante et circonstanciée dans le libre journal de la France courtoise, 139 boulevard de Magenta, 75-0010 Paris, journal qui s'honore de la collaboration de Jacques Houbard, auteur de Dieu, César et les bourgeois, qui est un livre, à mon avis, indispensable à la compréhension des phénomènes sociaux d'aujourd'hui, des grands phénomènes politiques d'aujourd'hui, raison pour laquelle j'ai demandé à Jacques de tenir dans le libre journal une chronique qui s'appelle César, Dieu et César, et qui, à mon avis, je le dis sans aucune fausse modestie, est une des chroniques les plus intelligentes, les plus intéressantes qui paraissent sur ce genre de sujet, c'est-à-dire des chroniques de réflexion sur la société, sur les systèmes sociaux, les plus intéressantes et les plus novatrices qui paraissent dans la presse française aujourd'hui. Mais c'est pas pour ça que j'ai demandé à Jacques de venir aujourd'hui, c'est parce que Jacques Houbard est également, depuis de longues années, un spécialiste de ce que j'appellerais l'écologie intéressante, l'écologie intelligente. Parce qu'il y a plusieurs sortes d'écologistes, et il y a des écologistes qui sont des crétins, ça c'est pas difficile à voir. Tiens, à propos d'écologistes qui sont des crétins, il y a un très joli papier dans Présent d'aujourd'hui, de Sandrine Le Chevalier. Sandrine Le Chevalier a remarqué, on l'a pas présent d'aujourd'hui, non, on l'a pas apporté dans le studio aussi. Alors voilà, je vais vous le lire parce que elle a écrit au Méridional la chose suivante. Elle a écrit à Var Matin la chose suivante. Monsieur le directeur, dans votre édition du 28 mars 1994, je lis en page 6 que Monsieur Brice Lalonde subit avec 25,38% des voix au second tour des cantonales une défaite honorable, entre guillemets. Dans votre édition de ce jour, 29 mars, je lis, page 2, que le Front National, avec des scores à Toulon s'échelonnant entre 32,2% et 42,05%, c'est-à-dire avec des scores supérieurs de 50 à 80% au score de M. Brice Lalonde, ça c'est moi qui fais la transcription, donc que le Front National, avec des scores à Toulon s'échelonnant entre 32,22 et 42,05%, subit des échecs cuisants. Vous voyez ? Alors, elle ajoute, « Je serais heureuse d'obtenir de vos collaborateurs les critères d'honorabilité et de cuisson dans l'échelle des défaites. Je suis sûr que cela intéressera vivement vos lecteurs. Sachez toutefois que je suis fier d'avoir obtenu, seul contre tous, 42,05% des voix dans le premier canton de Toulon face à un adversaire qui disposait des moyens de la mairie et du Conseil Général. Tous les autres candidats de Mieux Vivre à Toulon et du Front National peuvent être légitimement satisfaits des résultats qu'ils ont obtenus. » Je veux dire qu'à Toulon, on a eu de grandes joies parce que il y a également la victoire d'Eliane Delabrosse, qui s'est payé le culot de dire officiellement « je suis royaliste légitimiste » et qui a envoyé Monsieur Arex le nez dans la luzerne, ce qui est quand même assez rigolo et assez sympathique. Et elle est élue, bien que le même Var Matin dont parle, auquel écrit Sandrine Le Chevalier, est titré le samedi précédent le deuxième tour « Une royaliste d'extrême droite contre un sénateur républicain ». Ce qui montre le côté objectif de la presse locale en France. Alors, donc, on va parler avec Jacques Houbard d'une affaire qui est une affaire énorme, dont on entend beaucoup parler depuis ce matin, mais qui a des conséquences, ou plutôt qui ouvre des horizons très très importants. C'est l'affaire de l'explosion de la chaufferie de Courbevoie, la chaufferie à gaz de Courbevoie. Alors, on va parler de ça tout de suite, on va voir avec Jacques Houbard ce qu'il faut en penser et quelles conclusions on peut en tirer. Mais avant, je voudrais relever encore une petite petit aspect surprenant de l'information quotidienne en France, cependant que Roger Olyndre fait son entrée, que je salue.
Bonjour.
Non, pas son entrée, mais Roger. Voilà. Deux photographies de casseurs émanant de l'agence Gamma sont placardées depuis 15 jours dans tous les commissariats de la région Île-de-France. C'est Le Monde qui nous dit ça. Elles montrent avec netteté des visages de jeunes gens sans bandeau ni maquillage qui ont été surpris par un photographe de Gamma en plein pillage d'une boutique à la vitrine brisée. Diffusés pour identification au service policier, ces deux clichés figurent, sans que leur origine soit précisée, sur une affichette, comportant 16 photographies, etc., pintin couffin. Au lendemain de cette parution, le rédacteur en chef de Gamma, Didier Contant, écrivait au préfet de police pour protester contre une, ouvrez les guillemets, utilisation non autorisée des photos de cette manifestation, fermez les guillemets, qui peut laisser, ouvrez les guillemets, supposer une connivence entre notre agence et les services de police judiciaire, fermez les guillemets. Gamma reconnaît aujourd'hui avoir adressé les deux photos à la revue Liaison de la préfecture de police, qui est l'un de ses clients habituels, et qui naturellement n'a rien à voir avec la police, ça c'est bien clair. Elle admet avoir commis une faute en ne plaçant pas, pour des raisons liées à l'urgence de l'actualité, des bandeaux sur les visages de photos destinées à ce client en particulier. C'est l'organe de la police parisienne, c'est un client particulier. Vous savez, c'est les flics qui emploient cette terminologie. Alors ça, c'est un client particulier. Mais l'agence s'insurge contre le détournement opéré à la préfecture de police qui n'a pas hésité à utiliser ces clichés dans un avis de recherche judiciaire. Le travail de journaliste ne peut se confondre avec celui des policiers, conclut M. Contant. Alors, c'est tout à fait vrai, bien sûr, mais simplement il aurait fallu s'en apercevoir avant, vous voyez. Il aurait fallu s'en apercevoir, par exemple, avant que M. De Rogy, pour ne citer que lui, titre à la une de l'événement du jeudi « Comment j'ai retrouvé Touvier ?» Parce que M. De Rogy explique qu'il a retrouvé Touvier, puisque c'est lui quoi qui a fait le travail des flics. Ce qui n'est pas vrai, d'ailleurs, entre nous. Mais ça, là, il y a peut-être une légère confusion aussi entre le travail du policier et le travail du journaliste. Mais plus précisément, plus directement lié à cette affaire de photographie, il y a une affaire que je voudrais vous rappeler, qui s'est passée tout près d'ici, c'est au Parc des Princes, quand il y a eu les fameuses bagarres entre les hooligans du Paris SG et les CRS, et où non seulement la presse a communiqué à la police les photographies prises au moment de ces affrontements, mais en plus la presse a publié ces photographies de hooligans à visage découvert, en gros plan, mais mieux encore, la presse, et je parle de France Soir notamment, a titré une page entière « Si vous reconnaissez ces voyous, téléphonez au 42, etc., 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 pour les dénoncer ». C'est-à-dire que les mêmes journalistes qui viennent maintenant nous faire un fromage parce qu'on a passé une photo d'un jeune en train de piller une vitrine à la faveur d'une manifestation, sous prétexte qu'il ne doit pas faire de dénonciation, nous expliquaient, il y a quelques mois, qu'il fallait dénoncer à un numéro qui était ouvert à la commandanture, pardon, à la préfecture, qu'il fallait dénoncer les jeunes gens du Paris SG, enfin les jeunes supporters du Paris SG. Jacques Houbard.
Dans Le Monde, au moment des manifestations de policiers qui ont eu lieu, je crois que c'était en 86, Le Monde a fait tout un article où il dénonçait les policiers qui avaient participé à cette manifestation qui se passait du côté de la place Vendôme. C'était Le Monde lui-même qui a fait un article de dénonciation.
Voilà. Alors ça, c'est encore un exemple de l'éternelle et inévitable confusion entre le métier d'informateur et le métier d'indicateur. La seule solution, ça serait de n'avoir aucun rapport avec la police. Pour un journaliste, c'est assez difficile parce qu'il aurait beaucoup de mal à faire son travail. Mais je voulais surtout souligner à travers cette affaire l'extraordinaire hypocrisie du système médiatique actuel qui, selon que vous serez de droite ou de gauche, vous traitera d'une manière ou d'une autre, car il est bien clair que les hooligans du PSG ont la réputation d'être d'extrême droite, et que par conséquent, eux, on peut publier leurs photos, on peut les dénoncer, tandis que les casseurs de vitrines ont la réputation d'être d'extrême gauche, et en tout cas sont clairement défendus par l'extrême gauche. On l'a vu lors du débat incroyable, incroyable, qui s'est passé à la télévision avant-hier soir, dirigé par Michel Field, où on a vu tous les représentants étudiants dire « Nous sommes tous des casseurs, nous approuvons les casseurs, nous les soutenons et nous les défendons. » tous les... Roger Olimbre.
Je viens d'entendre à la radio que la manifestation de demain est confirmée pour le retour des deux Algériens en situation irrégulière, casseurs qui ont été expulsés. Alors tous ces jeunes chômeurs, ils ne devraient pas se contenter d'en demander deux. Il faut qu'ils se demandent que tous les jeunes chômeurs, puisqu'on est entre jeunes, hein, que tous les jeunes chômeurs qui sont en Algérie viennent aussi ici. Le jour où ils auront compris que c'est la présence de tous ces étrangers, surtout ceux qui sont en situation irrégulière, qui leur prennent leur boulot, hein, ben ils changeront peut-être un peu de tactique. Mais enfin, avec le gouvernement comme celui qu'on a et celui qu'on avait avant, il faut s'étonner de rien.
Je m'aperçois que dans le déroulement de ma présentation de l'émission, j'ai complètement oublié. Alors là, je suis navré. J'ai dit qu'on allait dire du mal des évêques, et je t'ai regardé, Bernard, à ce moment-là, alors que tu n'es pas venu du tout pour dire du mal des évêques, mais j'ai même pas parlé de ta présence, j'en suis désolé.
Non,
Bernard Anthony est là.
Un acte
manqué.
D'exclusion.
Un acte d'exclusion. Et alors, avec Bernard, on parlera de questions d'actualité, comme avec Roger. Mais, donc, je me tourne maintenant vers Jacques Houbard. Alors, Jacques, cette affaire de l'explosion de la chaufferie de Courbevoie, ça vous a inspiré certaines réflexions sur ce que j'appellerais l'hypocrisie écologiste.
Très exactement. D'abord, je voudrais faire un constat. C'est que j'ai acheté Le Monde, là, tout à l'heure, qui sortait vers 3-4 heures de l'après-midi. L'explosion a eu lieu dans la nuit, dans cette nuit, de mardi à mercredi, et dans le journal de jeudi, il pourrait au moins y avoir un entrefilet, et c'est complètement étouffé.
Alors, dans la dernière édition, il y a une colonne en page, je ne sais pas combien, mais alors vraiment tout à fait à l'intérieur, avec des informations d'ailleurs fragmentaires, puisqu'ils disent qu'il y a 59 blessés. En réalité, on sait maintenant qu'il y a au moins un mort, et 61 blessés, dont plusieurs très grièvement. Mais effectivement.
Ça s'inscrit en tout cas dans une entreprise d'étouffement. Des accidents dus au combustible. Et nous allons voir pourquoi j'insiste là-dessus. Par exemple, les accidents de gaz qui sont très fréquents. Ou bien on n'en parle pas ni à la télé, ni dans les journaux, ou par des petits entrefilets, mais vous avez presque tous les mois des appartements, des maisons qui sautent, ou des canalisations de gaz naturel, même en rase campagne, ou qui passent dans des villages et qui sautent et qui explosent, et qu'il y a des morts tous les mois. Imaginez que tous ces morts, s'ils avaient été dans nos centrales nucléaires, imaginez le scandale que ça pourrait faire. Alors donc, pourquoi est-ce qu'il y a un silence pareil? Alors c'est ça qui nous intéresse, si vous voulez. C'est la signification. Pourquoi est-ce qu'il y a une sorte d'immunité du CO2? Parce que faut pas oublier que tout ce qui est charbon, pétrole, gaz provoque du CO2. Déjà, c'est ça la grande, l'immense pollution. S'il y avait vraiment des écologistes sérieux, ils devraient lutter contre les énergies de combustion ou les diminuer au maximum. Or, ces énergies-là, c'est les pétroliers qui mènent la danse. Alors, je voudrais bien d'abord insister sur une chose. Pourquoi les pétroliers ont un tel rôle dans notre société? Eh bien, c'est parce que, très vite, dès la période léniniste, les pétroliers ont eu une politique d'amitié et de rapprochement avec le marxisme. Je voudrais rappeler le rôle d'un personnage comme Armand Hammer, qui était un ami de Lénine et qui était encore récemment vivant, puisque Mitterrand, après 81, s'est payé le luxe de l'inviter à l'Élysée et lui donner la Légion d'honneur. Eh bien, Armand Hammer est un des milliardaires rouges qui a joué un rôle très très important pour alimenter les caisses des partis communistes. Il était lui-même fils d'un des fondateurs du Parti communiste américain. Et il a fait énormément de trafic de pétrole. Bon, après, il y a cet aspect milliardaire rouge, gros pétrolier. Il y a eu aussi toute la lignée, la dynastie des Rockefeller, qui sont à l'origine de la trilatérale. Car la trilatérale est sortie, je ne vais pas rentrer dans tout l'historique, mais d'une organisation internationale basée sur les rois du pétrole, les Rockefeller, et notamment sur Exxon. Et la trilatérale, on sait très bien, Raymond Barre en est l'exemple parfait, qui n'a jamais voté une motion de censure contre le socialo-communisme et qui joue un rôle considérable dans l'économie occidentale, si vous voulez, et qui a toujours joué ce rôle ne touchons pas au communisme, l'économie c'est une chose, ne mélangeons pas les genres, c'est son expression. C'est l'expression de Raymond Barre, qu'il a donné dans une interview à un de mes confrères. Ne mélangeons pas les genres, c'est-à-dire que l'économie, eh bien, c'est ça qui compte avant tout, et le reste, la politique, eh bien, ma foi, ça doit passer au second plan. Et nous avons donc une espèce de collusion, je veux insister là-dessus, entre toute une partie du capitalisme mondial et le marxisme. Et cette collusion-là, on le voit à travers le barrisme, on le voit dans la trilatérale. Et on le voit notamment dans l'écologie. Pourquoi ont-ils, les écologistes, au lieu, on pouvait très bien concevoir, et moi je suis personnellement très favorable à la défense de l'écologie, mais pourquoi y a-t-il une telle obsession contre les centrales nucléaires françaises? Eh bien, c'est parce que les pétroliers, notamment l'Alberta, l'État pétrolier de l'Alberta qui a créé, qui a soutenu Greenpeace qui fait la loi à TF1, dès qu'il y a un problème écologique, vous allez voir tout d'un coup Greenpeace arrive. Pourquoi? Au nom de quoi? C'est même pas une organisation française, c'est une organisation canadienne. Et Greenpeace fait la loi à TF1. Pourquoi? Parce que c'est le pétrole. Et donc nous avons cette espèce de collusion entre les gros pétroliers et le marxisme.
J'ajoute, il me vient à l'idée quelque chose, c'est que, sauf erreur de ma part, j'ai pas de souvenir d'opérations spectaculaires menées par Greenpeace contre les gros pétroliers qui circulent dans le couloir de la Manche et qui sont à l'origine notamment de la catastrophe de la Mococadise, alors qu'en revanche, chaque fois qu'il y a un transport de matière irradiée, on voit arriver les zodiacs.
Serge, tu mets le doigt sur un truc fondamental. La Mococadise, c'était les élections législatives de 78 quand la Mococadise a craché ses tripes sur les écosystèmes bretons. Eh bien, le fameux commandant Cousteau, qui évidemment fait partie de cette bande, a fait tout un numéro contre l'énergie nucléaire française et il n'a pas dit un mot sur les pétroliers. D'ailleurs, moi je n'ai pas les moyens d'investigation policière qui seraient nécessaires, mais on saura un jour le rôle que les pétroliers ont joué dans ces explorations sous-marines, car il n'y a rien qui intéresse plus l'offshore que les plongées sous-marines de Cousteau. Or Cousteau tapait sur le nucléaire à bras raccourcis alors que la Mococadise était en train de pourrir la Bretagne.
Donc là, ce qui apparaît à travers les indications qu'on a, c'est qu'il y a une espèce de connivence entre les pétroliers qui sont producteurs de carburant et de tout produit, gaz, etc., et les écolos qui focalisent l'attention du public à travers des campagnes de paniquage, on pourrait dire, sur les dangers ou les prétendus dangers du nucléaire.
Par exemple, Cohn-Bendit. On peut voir que c'est un projet international. N'oublions pas le pétroleur Cohn-Bendit de 68 que tout le monde connaît. Quand il a été grillé en France après 68, il est parti en Allemagne et il a lancé le mouvement vert. Le mouvement vert anti-nucléaire.
Est-ce que ça veut dire que il faudrait abandonner en France, par exemple, tous les produits dérivés du pétrole dans les domaines où c'est possible?
Alors, ce qu'il y a d'abord, il faut d'abord rétablir un certain nombre de vérités. On dit aux Français, notamment aux Parisiens, vous savez qu'en ce moment, Paris a eu des problèmes de pollution terribles, on a eu des rapports récents, et on a dit que c'était les automobiles qui fabriquaient ça. Alors, faut d'abord savoir que c'est pas les automobiles, 10 ou 15% peut-être de la pollution provoquée du pétrole, des combustions du pétrole. C'est vrai que les automobiles jouent un rôle, mais il y a beaucoup d'autres combustions industrielles, et notamment toutes les centrales qui fonctionnent au pétrole. Aussi, il y a toutes les combustions d'ordures ménagères et toutes ces choses-là. Or, on avait organisé, avant que Mitterrand et ses écolos marxistes arrivent au pouvoir, il y avait de grands projets en France pour passer à l'énergie électrique de nombreuses applications industrielles. Il y a eu un coup d'arrêt. En plus, ça pourrait créer des emplois parce que ça serait une sorte de renouvellement de notre équipement industriel. Et il y a eu un coup d'arrêt dans cet effort vers la transformation des énergies et de passage à l'électricité qui est une énergie beaucoup plus propre. Déjà, si vous voulez, mais au niveau de l'industrie, il ne faut pas donner aux automobilistes une sorte de complexe. Bien sûr que ils ont d'ailleurs donné un coup d'arrêt en même temps à la voiture électrique. Hein. En 81, la voiture électrique, elle était déjà assez avancée. C'est seulement maintenant qu'on la relance. On s'est farci 14 ans de mitterrandisme et la voiture électrique a été arrêtée. Que les gens se posent des questions. Je pose ces questions parce que les écologistes sont quand même des réservoirs de voix de ces individus. Donc, il faut pas négliger cet aspect-là. D'abord, donc, il n'y a pas que la voiture, c'est déjà toute une mutation industrielle qu'il faut faire. Et d'autre part, que les Français exigent d'utiliser leur courant électrique, car l'Europe actuellement, qui est jalouse de la France et de l'hégémonie du nucléaire français en Europe, là, avec grâce aux organisations de la Commission européenne, ils essayent actuellement de juguler nos exportations d'électricité pour essayer de fourguer leur kilowatt à base de pétrole et de charbon. Donc, si vous voulez, il faudrait que les Français déjà exigent d'avoir des kilowatts chez eux et non pas, par exemple, le gaz qui est un produit extrêmement dangereux. Aucune installation au gaz n'est sûre. Même tout neuf, un fourneau électrique, un fourneau, par exemple, une gazinière, comme ils disent, toute neuve, il n'y a pratiquement pas d'étanchéité. Il passe toujours du gaz. Or, n'oublions pas non plus que les molécules de gaz sur les globules rouges, elles fixent, elles tuent nos globules rouges et c'est des causes d'anémie.
Alors ça, les gens de GDF disent non, c'est pas vrai. Maintenant, oui. Le gaz est pratiquement un produit inoffensif.
Il ne fixe pas les globules rouges. Alors ça, et justement, alors c'est une étude qui devrait être faite en écologie. Je vois pas pourquoi le gaz ne fixe plus les globules rouges comme il le faisait avant. Ça, alors là, ça serait une
j'explique qu'il est devenu.
Ça mérite un prix Nobel. Moins... Ça, c'est une invention qui mérite le prix.
J'explique qu'il est devenu beaucoup moins dangereux depuis qu'il a été traité. Moi, j'y connais rien, mais enfin, c'est.
Non, mais attention. Sur le plan des produits qui pouvaient provoquer de la pollution, en plus de si vous voulez, d'abord, le gaz fait du CO2. Vous ne pouvez pas rompre une molécule de carburant d'hydrogène. Et pour par la combustion avec de l'oxygène sans fabriquer du CO2. Et déjà, le CO2, c'est la grande pollution majeure de toute la planète, primo. Deuxièmement, vous avez les fuites de gaz qui, dans le privé, anémient les gens. Et ça, ils n'ont rien changé. Ce qu'ils ont changé, c'est qu'ils ont fait du gaz très propre. Si vous voulez, moins mélangé avec d'autres produits.
Moins souffré,
voilà, oui.
Alors, est-ce que c'est techniquement possible de passer de la filière gaz, comme on dit maintenant, à la filière électricité nucléaire dans un délai raisonnable ?
Mais bien sûr, mais déjà, il y a des immeubles entiers. Il y a des immeubles entiers qui sont entièrement équipés électriquement. Ce qu'il y a, c'est que les socialistes l'ont freiné, c'est tout. Pourquoi ils l'ont freiné ? Parce que n'oublions quand même pas que le gaz, on le paye aux Algériens qui assassinent les Français qui travaillent en Algérie. On leur importe du gaz et on importe du gaz des Russes. Alors déjà, on gagnerait des devises, en plus, ce qui serait de l'écologie économique. Si
oui, mais enfin, avec les Algériens, on leur donnerait le fric sans contrepartie, tandis que là, au moins, on a du gaz en échange. Comme de toute façon, il faudrait toujours leur donner l'argent. C'est comme ça depuis longtemps. En tout cas, c'est un. Moi, je trouve que c'est une, comment dirais-je, une perspective ou une façon, un point de vue tout à fait intéressant d'essayer d'analyser l'ambiguïté des relations entre les écologistes et les pétroliers. Et ben, je pense que vous allez vous attacher à cette tâche, Jacques, d'une façon plus approfondie dans les semaines qui viendront.
Ah oui, non, ça fait longtemps. Mais si vous voulez, ça ne passe jamais la barrière de mes lèvres. Juste la barrière de mes lèvres.
Et ben, on essaiera de faire franchir la barrière de l'imprimer dans le livre journal. Merci en tout cas. Votre prochain papier, c'est la suite. Dans votre prochain papier pour le livre journal, je crois que c'est
En ce moment, j'étudie le modèle de la dialectique Dieu-César sur l'Amérique. Amérique du Nord, Amérique du Sud.
Je dois dire
et
que
notamment,
c'est particulièrement passionnant.
L'utilisation notamment des Indiens, dont on s'est tellement foutu pendant tellement de siècles, à tel point d'ailleurs qu'il n'y en a plus. Et le peu qui reste, en tout cas dans l'Amérique du Nord, de ces Indiens est actuellement utilisé pour déstabiliser ce qui reste de l'État fédéral et au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Actuellement, il y a des organismes, d'ailleurs, souvent les mêmes d'ailleurs, qui ont pour tâche de détruire les États. Car l'économie, pour eux, dans leur point de vue d'ailleurs, très, très imbécile d'ailleurs, il faut bien le dire, l'économie n'est vraiment prospère que quand les États sont détruits. Et donc, ils sont en train actuellement. J'ai encore vu tout récemment à Planète mm-hmm. d'ailleurs, que une chaîne qui m'intéresse, mais qui est sûrement d'ailleurs très contrôlée par ces gens-là. J'ai vu une émission contre le Québec monstrueuse, incroyable, où on traite les Québécois de fascistes, d'hitlériens et tout ça, parce que il y a eu une histoire d'un carteron d'Indiens qui s'était emparé d'un golfe en disant que ça leur appartenait, tout ça. Et il y a eu, les anglophones en profitaient pour aller sur les lieux de la manif. C'était une manif permanente, puis ils ont occupé ce terrain de golf et un pont pendant plusieurs semaines. Et ils allaient crier « sale français » à l'armée canadienne qui était là. Et ils criaient « sale français ».
Oui, c'était intéressant cette émission, parce qu'on voyait très bien le fasciste. Quand on nous parle de l'État fédéral québécois, enfin canadien, on voit très bien l'excellence des relations qui existent entre les différentes communautés. Entre les communautés de natives ou d'indiens, les communautés de francophones et les communautés d'anglophones. Je pense que tout ça démontre, pour nous c'est intéressant parce qu'on peut en tirer des conclusions tout à fait utiles sur la viabilité des sociétés mosaïques. Je sais pas comment, oui, on peut dire ça, mosaïque. Bernard,
oui, oui,
c'est ce que vous diriez.
Oui,
oui. Un commentaire sur ces curieuses connivences entre l'écologie et l'économie pétrolière.
Oui, enfin, je ne me suis pas préparé au débat sur la question. Alors, j'imagine. Je ne voudrais pas, je ne suis pas Pete de la Mirandole, je ne suis pas compétent en tout domaine.
Vous auriez pu avoir une...
Il
une
va de soi, oui, sur le plan purement politique. Il y a d'ailleurs un livre qui a été publié ou écrit par Henri Coston, Nadir, qui s'appelle « Les Sept Sœurs », ou plutôt par quelqu'un qui s'appelait, je pense, André Fontaine, je ne me souviens plus exactement, qui faisait allusion à cette chose-là. Bon, ça, c'est un point. On sait fort bien les relations. Par exemple, Roger Olindre qui est là, c'est très bien à l'Afrique, comment au Cabinda, par exemple, comment en Angola, comment les compagnies pétrolières, d'une manière générale, ont fait bon ménage avec la subversion. C'est ce dont un chef d'État illustre parlait en citant la ténébreuse alliance entre le capitalisme international et le socialisme apatride. Cela dit, je ne vais pas participer au débat écologique, parce que tout de même, les centrales nucléaires, ce n'est pas non plus la panacée, et que je pense qu'il y a des risques considérables. Alors, je sais très bien qu'il ne faut pas mettre sur le même plan l'industrie nucléaire ex-soviétique et l'industrie nucléaire française, bien entendu. Non, mais bien entendu, mais cependant. Nous avons nos risques aussi. Il y a les pollutions des rivières, c'est considérable aussi par le réchauffement. Il y a le fait que tout de même, lorsque on met en place des centrales nucléaires, on sait très bien que, en quelque sorte, on engage l'avenir pour des milliers d'années. Et c'est peut-être pas évident, et on sait très bien aussi, dernièrement, qu'il y a pu y avoir des incidents. Alors je sais, on dit toujours, c'est fiable, il n'arrivera pas d'accident. Mais moi je peux vous dire une chose aujourd'hui, c'est que dans le Mirage français porteur de bombes, il y a 5 éléments de sécurité. Et normalement le premier suffit, en cas de crash, pour que la bombe n'explose pas. Eh bien, ce dont je parle est ancien. Eh bien, un jour, 4 éléments de sécurité n'ont pas fonctionné. Le Mirage 4 s'était écrasé à 30 km de Bordeaux. Alors, je suis toujours très circonspect sur les assurances des techniciens disant « il ne peut pas y avoir de Tchernobyl en France ». Je le souhaite, évidemment, mais je veux dire, ça pose quand même problème, comme on dit dans le jargon du jour.
Alors, Le lobby gazier réagit derrière Bernard Anthony, d'ailleurs, en disant, un auditeur dit, il faudrait quand même pas oublier Tchernobyl.
C'est une question sur laquelle je suis incompétent. Je me permets juste de formuler une observation, je ne veux pas...
Tchernobyl, c'est la tarte à la crème des écolos. Qu'est-ce que vous voulez, on peut pas discuter sur Tchernobyl. Tchernobyl, c'est l'Union soviétique.
Je ne suis pas un écolo, mais il y a 19 centrales. Yes. Menace d'être tchernobylisé, et ce que je sais, c'est que l'autre jour,
oui.
Cependant, à Pierrelatte, il y avait quelques problèmes. Et que pour avoir parmi mes compagnons de combat un remarquable ingénieur du nucléaire avec qui je dînais hier au soir, et à qui je demandais est-ce qu'il n'y a pas de risque, Ben, il me disait, il suffirait qu'il y ait un essène comme moi qui devienne fou pour que ça tourne à la catastrophe générale.
Or, c'est déjà fait.
Les fous, lui n'est pas encore autour des fous, mais tout de même, c'est pour dire...
Non, mais c'est évident.
C'est pour dire, je me souviens d'une intervention comme ça de Jean-Marie Le Pen, exactement sur le sujet. D'ailleurs, il aime raconter cette anecdote. Ça se passait il y a des années, à propos du nucléaire. Il tenait un peu mon raisonnement. Et on lui disait, il disait, ben, vous allez peut-être me dire que les plateformes de forage aussi ne sont pas susceptibles de couler. Et l'homme qu'il avait en face de lui dit, c'est tout à fait impossible. Et Jean-Marie Le Pen lui dit, oui, mais il y en a une qui vient de couler hier au soir.
Alors, en tout cas, c'est toujours sur les sujets auxquels on s'attend le moins que les réactions sont les plus vives. Alors, un auditeur dit, votre invité, c'est-à-dire Jacques Aubard, qui est stipendié par le lobby nucléaire... Et tout électrique. Je peux vous dire alors.
Il est misérable, le directeur.
Alors si c'est, oui, si vous êtes stipendié par eux, mon pauvre Jacques, il faudrait quand même leur demander une augmentation. Il y a urgence. En tout cas, vous risquez pas d'être stipendié.
Il faudrait qu'ils le disent au Crédit Lyonnais.
Il faut quand même pas oublier que pendant des années, les écolos ont été financés par les Émirats arabes. Alors là, il y a aussi quand même à boire et à manger. C'est sûr que plus il y avait de centrales nucléaires qui se créaient en France, et plus et moins on vendait de pétrole. Alors tout ça, c'est quand même à mettre autour d'une table, puis en discuter. Bon, c'est sûr que de toute façon, le Front n'a jamais été pour le tout nucléaire. Mais il y a quand même d'énormes dangers. Mais il y a des dangers pour tout.
À partir du moment où l'homme a commencé à poser un pied devant l'autre, il a risqué de se casser la figure.
Le risque zéro n'existe pas.
Voilà. Oui, alors, le gaz actuel, nous dit un auditeur, n'est plus toxique. Il ne fixe plus les globules rouges car c'est un gaz de pétrole et non plus de houille. Il n'en est pas moins explosif. Alors, je livre cette réflexion, mais sans en tirer...
Très bien.
Parce que ça échappe complètement à mes compétences, qui sont d'ailleurs fort minces. Non seulement dans ce domaine, mais dans beaucoup d'autres. Alors, un auditeur dit, j'aime bien Radio Courtoisie, mais les propos sans nuance du conférencier de ce jour sur le gaz ne sont pas une réclame pour l'émission. Moi, je crois que ce qui est une réclame pour l'émission, c'est qu'elle reçoit absolument tous les gens qui ont des choses intéressantes à dire. On n'est pas forcé. Si on ne reçoit, j'ai dit ça toutes les semaines, donc c'est pas la peine de continuer. Si on ne reçoit que des gens avec lesquels on est d'accord, on va vite se fatiguer.
Et puis, un auditeur vous félicite, par contre, pour votre émission. Et il va dire qu'il lui dit quelque chose qui va vous plaire beaucoup. Je parviens à regarder le foot à la télévision, sans le son, et à écouter votre émission avec le son.
Mais vous savez que...
ça vous fait plaisir.
Non, mais il faut dire une chose, c'est que souvent je m'emporte contre le football, mais c'est pas tellement contre le spectacle du football à la télévision. Je crois que le pire, ce sont les commentaires. Et je regardais avant-hier soir le splendide match, combat de boxe entre Mendy et Gonzalez, qui était vraiment un grand. La boxe, quand c'est joué comme ça, c'est de la tragédie grecque. Eh bien, on regardait ce spectacle qui était quelque chose d'admirable, et il y avait trois abrutis, il n'y a pas d'autre mot, qui dégoisaient n'importe quoi dans les micros, mais c'était à pleurer de rage, littéralement. Alors, on peut pas couper le son parce qu'on perd l'ambiance de la salle, mais on est obligé de subir les conneries de ces gens-là, et c'est vraiment à s'arracher les oreilles. Donc, je comprends qu'on regarde le football.
Avec vous, j'ai regardé le match aussi.
Magnifique.
J'étais champion poids moyen de mon université, pour vous dire.
Alors maintenant, vous avez remplacé les gants par la plume, on va d'ailleurs en parler.
Vous savez, les Français actuellement sont toujours, chacun à son petit lobby écologique sur les reins. Les Québécois, par exemple, ont une très très puissante houille blanche. C'est Hydro-Québec, qui est une très grande compagnie qui fournit en électricité tout le nord même des États-Unis, sous une bonne partie d'électricité de New York est fournie par Hydro-Québec. Eh bien, toutes les semaines, les écologistes tapent contre Hydro-Québec, parce qu'Hydro-Québec coupe des arbres, parce que ça a gêné une certaine tribu qui a été déplacée à 50 km vers le nord. Toutes les semaines, Hydro-Québec est attaqué. Et par qui il est attaqué? Par Greenpeace, financé par les pétroliers.
Alors moi, je voudrais dire ici, peut-être, parce que je ne l'ai jamais exprimé, le lobby écologique qui est le mien, c'est celui d'une saine utilisation de l'univers carcéral. Alors, je vais peut-être plaisanter, je plaisante pas souvent à Radio Courtoisie, mais je vais le faire un peu, mais enfin, je n'ai pas été réfuté sur le sujet. Voilà quel est mon projet. C'est d'utiliser les gens qui sont dans les prisons. Il faudrait d'ailleurs qu'il y en ait même de plus en plus, quand on voit ce qui se passe dans nos cités. Bon, alors, ces gens-là, on nous dit la déprime de l'univers carcéral. Et je comprends tout à fait cela. Alors moi, je propose qu'on les mette sur des quadrirèmes. Aujourd'hui, on peut construire construire de magnifiques bateaux avec des rames en fibre de verre. Ils peuvent ramer, ils feront les 3-8. On mettra des inspecteurs du travail au tambour. Et donc, les gars de la santé, de Fresnes, de Bois d'Arcy, ils se retrouveront sur la Méditerranée. Les galères ne polluent pas. C'est beaucoup plus humain. Ils sont à l'air libre. Ça leur fait les bistrotos. Et ensuite, on les recycle. Ils pédaleront le long des autoroutes. Ils fabriqueront dans le long de gigantesques tapis roulants qui sont absolument appolluants aussi. Et c'est ainsi qu'on règle le problème de la pollution et l'univers carcéral. Ça n'est pas réfuté, Serge de Becquet.
Non, mais je mets ça, si j'ose dire, aux voix dans les prisons, car je vais vous apprendre quelque chose, mon cher Bernard. Cette émission est très écoutée.
Eh bien, je mets aux voix.
Les radios libres, en général, sont très écoutées. Mais j'ai découvert par le courrier que je reçois que beaucoup de détenus écoutent cette émission. Ils ne sont pas toujours d'accord d'ailleurs, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais voilà, donc je leur propose de nous livrer leurs commentaires sur votre proposition. Moi je pense que si j'étais en prison et qu'on me propose, plutôt que de moisir dans une cellule avec 5 co-détenus, d'aller ramer avec des rames en fibre de verre sur la Méditerranée, surtout en fibre de verre, alors là c'est le rêve, ben je crois que je ne serais pas contre. Après tout, 8 heures de rame et 16 heures de ramier.
Écoutez, j'offre ça à la réflexion des auditeurs de Radio Courtoisie.
Voilà, bah comme ça fait avancer le schmilblick, comme on dit. On revient tout à l'heure sur les questions d'actualité, mais pour en finir avec les questions de pétrolières et nucléaires, un auditeur nous rappelle quand même l'existence des carburants à alcool. Et moi, je ne sais pas pourquoi, ça a un côté désuet qui me plaît beaucoup. Et qui, dit-il, sont très bien, pas chers, non polluants. Puis en plus, quand on roule pas, on peut toujours boire un coup. Et il invite à lire le livre de Pierre Fontaine, Les secrets du pétrole, qui, dit-il, est très intéressant.
Voilà, voilà. Je cherchais tout à l'heure le prénom du Fontaine en question, c'est de celui-là qu'il s'agit.
Voilà. D'autres commentaires Non, pas d'autres commentaires sur la question. Monsieur Patrenot, vous, qu'est-ce qu'il y a encore, Philippe ?
Mais Philippe est en train de ronchonner parce que je ne vous parle pas des messages qui parlent d'autre chose que le sujet en question.
D'accord. C'est la guerre. C'est la guerre dans l'équipe. Voilà.
J'ai tout donné.
Qu'est-ce que je dis ? Paternot, décidément, je...
Il n'arrive pas à orthographier mon nom. Hein.
C'est quand même curieux. Il y a des noms comme ça que j'arrive pas à me mettre dans la tête. Bon, monsieur Paternot, Jacques Paternot.
Vous rappelez, il faudrait monsieur Paternot Ster, comme disait mon professeur de latin.
Il faudrait que vous ne taisiez point à partir de maintenant, puisqu'on va parler de votre livre. Un message d'auditeur vous signalant que l'émetteur TF1 mardi 22 mars vers minuit et demi avait diffusé la déclaration de l'évêque de Versailles, Monseigneur Thomas, prononcée dans une loge maçonnique, déclaration selon laquelle, d'après Monseigneur Thomas, la religion catholique romaine serait compatible avec la franc-maçonnerie. Je tiens à vous faire savoir, au cas où vous ne le sauriez pas et si vous l'aviez oublié, que Mgr Thomas est en même temps président d'honneur de l'association Montre-nous ton visage, qui diffuse des études et des informations concernant le linceul de Turin, dit Saint-Suaire. Il y a une dizaine d'années, du fait que mon père Gabriel Kidor fut chargé par le roi d'Italie Victor Emmanuel d'expertiser ce linceul de Turin entre 1900 et 1905 et reconstitua le relief du visage du Saint-Suaire en 23-24, ce groupe de gens qui voulaient relancer l'affaire du Saint-Suaire vint me relancer chez moi pour m'attirer dans cette association Montre-nous ton visage. Lors de la troisième séance de réunion de Montre-nous ton visage, je fus présenté à Mgr Thomas, dont les propos me produisirent la plus mauvaise impression, ce qui fut confirmé par ses exploits progressistes qui suivirent. Lorsque j'appris que Montre-nous ton visage se proposait de l'élire comme président, j'avertis tout le comité directeur que Mgr Thomas, s'il devenait président de Montre-nous ton visage, allait inévitablement entraîner et compromettre cette association dans une direction qui n'aurait plus rien de chrétien ni de religieux. Les membres du conseil me montrèrent par leur réponse qu'ils approuvaient consciemment cette orientation et Thomas fut élu président. Ainsi mit-il la main sur le Saint-Suaire. Alors, le fait est quand même que c'est tout à fait significatif, dans le sens qu'un évêque qui fraye, un des nombreux évêques qui fraye avec la franc-maçonnerie, soit en même temps le président d'honneur d'une association qui est censée assurer, entre guillemets, la promotion du Saint-Suaire. Parce que ça, c'est tout à fait typique des méthodes maçonniques. On mène le combat de deux manières. D'une part, de front, en attaquant de front l'adversaire, et d'autre part, en le subvertissant, en l'infiltrant, et en se livrant à l'intérieur des armées de l'adversaire à des manœuvres de destruction. C'est la raison pour laquelle de nombreux évêques à l'heure actuelle sont connus ou très fortement soupçonnés d'être, sont connus comme maçons ou très fortement soupçonnés d'être francs-maçons. Alors, ça n'est évidemment pas le sujet principal de votre livre, mais ça nous amène quand même à évoquer cette question du comportement des évêques. Alors, votre livre, Jacques Paternot, c'est surtout un livre qui démontre que les évêques parlent beaucoup de choses dont ils ne connaissent pas le premier mot.
Oui, ce livre, je l'ai écrit dans un coup de colère. Je l'ai écrit en 3 mois, comme ça, en trempant ma plume dans l'acide sulfurique. Et le livre est très inconvenant, il est très irrespectueux. Mais il n'est pas écrit contre les évêques, je l'ai écrit pour eux. Je l'ai écrit pour eux parce que je me suis mis en colère le jour où je me suis aperçu que l'enseignement social et économique des évêques était en contradiction avec celui du pape. Or, c'est une situation qui me paraît quand même assez anormale. Et dans ce livre, j'ai essayé de montrer, premièrement, historiquement, comment on en est arrivé là. Deuxièmement, quel est l'inventaire des idées fausses qui animent nos évêques dans des sujets comme le chômage, comme la sécurité sociale et comme l'immigration. Et pour terminer, et c'est la partie, disons, positive du livre qui jusque-là est extrêmement dure, de leur proposer quelques remèdes pour les amener à aligner leur enseignement sur celui du Saint-Père et d'œuvrer en faveur des pauvres, des déshérités, etc., alors qu'aujourd'hui, ils font juste le contraire.
Donc c'est alors, ça le sujet. Vous avez une formule qui est assez drôle et qui est profondément vraie, je crois. Vous dites, je ne sais plus quel moment, on se pose la question de savoir si, par hasard, les évêques n'aiment pas tellement les pauvres qu'ils essaient d'en fabriquer le plus possible pour pouvoir s'en occuper.
C'est une formule que j'avais utilisée dans une lettre que j'avais écrite au pape il y a 5 ou 6 ans en disant « Très Saint-Père, l'Église aime-t-elle à ce point les pauvres qu'elle veille à en faire davantage de peur d'en manquer ?» C'est une formule d'ailleurs qui a été reprise et qui a valu, un prix à un homme politique dont j'ai oublié le nom. Alors, c'est intéressant de voir, si vous voulez, comment les évêques en sont arrivés là. En 1217, le marxisme avait 72 ans, mais on ne l'avait jamais appliqué. Donc on ne savait pas, on ne connaissait pas du tout les résultats. Et depuis 1917, il a encore vécu 72 ans jusqu'à la chute du mur de Berlin.
Maintenant, on connaît les résultats.
Alors, mais on les a connus tout de suite. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas dû attendre Solzhenitsyn pour savoir les résultats du marxisme. On l'a su en 1924, 1923, 1924, 1925, comme ça. Tout ça a été très vite connu. Et malgré cela, il y a eu à ce moment-là un phénomène pathologique dans l'intelligentsia occidentale que j'appelle l'in-intelligentsia, parce qu'elle a absolument refusé de faire face aux réalités, de faire face aux informations qui lui parvenaient de toutes parts. Et il y a un phénomène qui n'aurait pas dû se produire. Quand on écrira l'histoire du XXe siècle, on dira qu'il y a quelque chose qui n'aurait pas dû se produire, c'est la marxisation des églises chrétiennes, aussi bien catholiques que protestantes. Et le phénomène était si grave déjà en 1937, c'est-à-dire 20 ans après le coup d'État de Lénine, que le pape Pie XI a fait une encyclique qui s'appelait Divini Redemptoris, dans laquelle il a dit le marxisme est intrinsèquement pervers. Et on ne se rappelle plus que cette encyclique a produit un choc, un scandale, que le pape s'est fait insulter par tous les chrétiens qu'on appelait engagés dès cette époque. Engagés par qui, je ne sais pas. Et puis, en 1945, l'URSS fait partie des vainqueurs. Et alors, on dit, voyez bien que le système marche puisqu'ils sont vainqueurs. Enfin, c'est donc le sophisme absolu. Et à cette époque, la vulgate marxisme est enseignée dans les séminaires, et en particulier dans des endroits comme Louvain, Lyon et Paris. Et dans ces séminaires, se présente toute une quantité de jeunes futurs prêtres venant en particulier d'Amérique latine.
Si vous regardez la biographie des principaux christo-marxistes latino-américains aujourd'hui, vous voyez qu'ils sortent très souvent, comme le père Boeuf ou le père Gutiérrez, ils ont été éduqués à Louvain et ou à Lyon. Et alors, à partir de 1968, les évêques décident que leur rôle est d'instaurer la justice sociale, ce qui en soi est un noble but, on ne peut pas leur refuser cela, et d'y contribuer. Et alors, ils adoptent une méthodologie qui s'intitule « voir, juger, agir ». Bon, très bien. Alors, voir, c'est facile, on voit en particulier, si vous vous trouvez au Brésil, comme j'ai été, ou en Afrique, vous trouverez qu'il y a des gens pauvres, misérables, qui souffrent, etc. C'est pas difficile à voir. Juger. Alors, ils jugent à partir de l'analyse marxiste. Et à partir de là, ils se plantent, parce qu'ils développent un programme d'action qui n'a rien à voir avec les réalités et qui va plonger les gens qu'ils veulent aider dans davantage de misère. Et vous avez un bon exemple, pas très loin, n'est-ce pas ? Dans les années 70, les évêques français approuvent l'option pour le socialisme. En 81, Mitterrand est élu avec 1,8%, je ne sais plus exactement, quelque chose comme ça, pas 2% de majorité, et on peut dire que ces 2%-là, ce sont les évêques de France qui, par les médias qu'ils contrôlent, par les sermons qu'ils ont faits, par les lettres pastorales qu'ils ont écrites, ont apporté... Donc si nous avons Mitterrand aujourd'hui...
Pardon de vous couper, on peut le vérifier d'une façon très simple, c'est François Brugnot qui explique ça souvent, en regardant comment vote la Bretagne. La Bretagne, oui, vote comme les curés.
Oui, mais c'est beaucoup plus large que la Bretagne.
Oui, mais le vote breton suffit, oui, à expliquer la victoire de Mitterrand. Oui, en chiffres.
Oui, si vous voulez. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui, après 14 ans de ce régime, que le peuple français en ait tellement bénéficié. Donc, quand j'écris dans mon livre qu'ils sont co-responsables du chômage... C'est malheureusement juste.
Ils sont co-responsables du chômage dans ces causes, en tout cas dans ces causes psychologiques, puisqu'ils ont soutenu un système qui est générateur de chômage, mais également ils sont co-responsables de l'échec économique, parce qu'ils adhèrent systématiquement à toutes les balançoires économiques.
Oui.
Ça, c'est tout à fait frappant. Par exemple, quand on leur dit il faut répartir le travail, répartir le temps de travail, il faut les 34 heures, ils sont pour. Si on dit les 32 heures, ils sont pour. Si un jour un crétin vient en disant il faut travailler 20 heures, les évêques seront pour. C'est obligé.
Oui, parce que alors, ce qui est intéressant, c'est pas, ce sont des gens qui sont bons, qui sont fondamentalement bons, qui...
Enfin, pas avec tout le monde, quand même.
Non, là, si vous voulez, ce sont des gens qui ont bon cœur, n'est-ce pas, et qui souffrent, comme moi d'ailleurs, et quand ils voient les gens dans la peine. L'ennui, c'est qu'ils sortent du domaine où ils étaient compétents, c'est-à-dire la religion et la morale, pour entrer dans un domaine où ils sont totalement ignares, totalement incompétents, et ils foncent. Sans boussole, sans carte, etc. Et alors, je dis dans mon livre, ça ressemble à l'offensive de Gamelin dans la plaine belge en 1940, avec les mêmes résultats. Parce qu'il y a... Alors, ils abandonnent la morale, et ils se font tourner, si vous voulez, par Jacques Lang.
Et aujourd'hui, ce qui est embêtant et dangereux.
Ce qui est dangereux. La morale qui nous est enseignée aujourd'hui, ce n'est plus la morale des évêques, c'est celle de Jacques Lang. Alors je prends Jacques Lang comme je pourrais prendre un autre exemple, mais il me paraît pas mauvais.
Il est pas mal celui-là.
Oui, il est pas mal.
Donc mais d'ailleurs ils ont eux-mêmes adhéré à la morale de Jacques Lang. Quand on entend Gaillot évêque exposer ses principes moraux.
C'est un cas un peu particulier.
Oui, mais enfin bon, jusqu'à plus ample informé, personne ne l'empêche de continuer à parler. Personne ne lui a intimé silence et personne ne lui a infligé les peines infamantes qui ont été infligées à Mgr Lefebvre.
Un auditeur demande si vous pouvez parler de lui chez Froufrou à la télévision.
Je n'ai pas vu cette émission, mais on me l'a raconté quand les courturiers ont présenté les soutanes pour les nouvelles, les femmes prêtres.
Merci Fellini d'ailleurs, entre parenthèses.
Oui. Alors on ne sait pas d'ailleurs si on va les appeler des prêtres, des prêtresses. Et puis quand elles deviendront évêques, est-ce qu'on les appelle des évêques?
Non, mais ça, c'est
des évêches.
Étant donné que
des évêches,
ce sont
des épiscopettes, je ne sais pas.
Étant donné qu'elles sont dessinées par, elles appartiennent à une église qui est sans aucune valeur, le nom qu'on leur donne n'a aucune importance. Il n'y a pas de femme
prêtre.
Oui,
mais le drame, c'est que tout ça, ça permet à tous ces gens de se foutre de notre religion et uniquement de la nôtre.
Oui, bah ça, c'est évident.
Parce que moi, j'entends jamais de plaisanteries sur les imams, j'entends jamais de plaisanteries sur les rabbins. Je n'en demande d'ailleurs pas.
Non,
je n'en demande d'ailleurs pas. Je leur demande de respecter nos prêtres, parce que le gars qui vient parler à la télé de la religion, ben il devrait au moins être de cette religion-là, et puis il devrait être au moins pratiquant. S'il n'est pas pratiquant, le gars, il a strictement rien à dire là-dessus. Hein, quand cette histoire du linceul dont vous parliez tout à l'heure, bon, jamais personne n'a mis en doute, et moi je suis contre ce fait qu'on mettra en doute, la pierre sacrée de la Mecque, ou les reliques juives, ou les reliques de toutes les religions. Il n'y a que notre religion qui est constamment et systématiquement attaquée par tous ces crétins.
Il y a un exemple clair, c'est que la seule fois où il y a eu une allusion, mais infime, dans une émission de Dorothée qui s'était permis de présenter une scénette dont le personnage principal avait été appelé Rabbin des Bois, ça a provoqué un cataclysme de protestation. Pratiquement, Dorothée a failli perdre toutes ses émissions à la télévision. Elle s'est rattrapée du bout des ongles.
L'autre jour,
tous les jours.
L'autre jour, la robe où il y avait un verset du Coran dessus, là. Bon, ils l'ont représenté à l'émission du soir en présentant des excuses, et il y avait un carré noir sur la robe, alors qu'il y avait un tas de tordus, un joufflu et tout ça, à moitié à poil, les seins à l'air avec des croix catholiques et tout. Enfin, oui. Tout ça est proprement honteux. Alors, c'est d'ailleurs comme tout le reste.
Si les seins étaient jolis, ça aurait été dommage de mettre un carré noir.
Mais je voudrais dire quand même, par rapport à votre réflexion, c'est que la récupération par le marxisme, par le socialo-communisme des chrétiens, allez, c'est une vieille histoire. C'est une entreprise qui remonte à la main tendue de Maurice Thorez. À la libération, il y a eu toutes les offensives, les marxistes, dialogue avec les chrétiens et les marxistes. Ils ont sorti des tas d'ouvrages là-dessus. Et l'idée centrale était, le Christ est une sorte de Spartacus, et au fond, nous, les communistes, ce sont exactement comme les premiers chrétiens, ils luttaient contre l'esclavagisme. Alors, justement, c'est une chose d'ailleurs que j'ai traité là dans mon dernier bouquin, cette récupération, c'est ce que j'appelle la manip religieuse, et ça dénature complètement l'esprit du christianisme. Ce que le christianisme a apporté, c'était de considérer que tous les hommes par rapport à Dieu étaient égaux, que ce qu'il soit esclave, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, qu'il soit de n'importe quel pays, et ça a toujours été la doctrine du temps où il y avait une église, ça a toujours été sa doctrine que Gaston de Renty par exemple défendait au XVIIe siècle, c'est-à-dire que le problème n'est pas le rapport des hommes entre eux au sein de la société, le rapport est celui de l'homme à Dieu. Et pour Dieu, tous les un type est esclave. Ils allaient au martyr, comme Renan le rappelle très bien, et Renan qui n'était pas de l'époque où on falsifiait l'histoire, Renan explique très bien que les chrétiens allaient au martyr avec leurs esclaves. Ils avaient des esclaves, mais ils étaient tous chrétiens, et ils allaient tous au martyr ensemble. Blandine était esclave. Donc, ça n'a rien à voir. Le christianisme et le communisme n'ont absolument rien à voir. C'est là l'espèce d'escroquerie de la théologie de la libération que j'ai connue, moi, en Amérique latine. J'ai enseigné 2 ans à Bogota, et j'ai connu Camilo Torres là-bas, qui tuait les petits soldats du contingent, qui avait jeté sa soutane aux orties, qui tuait les petits soldats du contingent, et qui, d'ailleurs, il est mort aussi, mais bientôt,
Che Guevara l'avait parfaitement compris. Che Guevara disait, on ne peut pas faire la révolution sans l'Église. On ne peut pas faire la révolution sans l'Église. Donc, cette recherche du travail en commun avec l'Église catholique, vous la trouvez dans tous les manuels de guerre subversive et de guerre révolutionnaire.
Mais enfin, Jacques Paternot, il y a quand même une question qu'on a le droit de se poser, c'est qu'un évêque, Aujourd'hui, pour devenir évêque, si j'ose dire, il faut avoir fait des études. Donc on est censé considérer qu'un évêque ne peut pas être un imbécile. Bon, première chose. Deuxièmement, on est obligé de croire qu'il agit, en tant que catholique, on est obligé de croire qu'il agit sous l'inspiration du Saint-Esprit, puisqu'il fait partie des apôtres, et donc, enfin, il est successeur des apôtres. Donc il a reçu l'inspiration, la visite du Saint-Esprit. Alors, comment peut-on expliquer que des hommes qui sont du niveau intellectuel, de l'élite d'une société, qui sont intellectuellement du niveau d'un avocat, d'un médecin, d'un ingénieur, d'un professeur d'université, normalement, bon, et qui d'autre part sont visités par le Saint-Esprit, comment peuvent-ils adhérer à des théories aussi évidemment imbéciles sur le plan économique, mais sur tous les plans?
Alors c'est ce que j'ai expliqué, j'ai consacré 3 chapitres du livre à ça. D'abord, les évêques sont des intellectuels. Ce sont des gens qui n'ont jamais dirigé une entreprise, qui n'ont jamais été responsables pour un bilan, qui n'ont jamais eu à engager ou à mettre à la porte du personnel. Et par conséquent, ils ont tous les défauts, excusez-moi, des intellectuels qui n'ont jamais mis les mains dans le cambouis. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le marxisme a été l'idéologie dominante dans notre société pendant fort longtemps.
Encore ?
Et on peut se poser la question s'il n'est pas encore. Et puis, le troisième point, c'est qu'ils ont voulu, ils se sont précipités là-dedans pour essayer de faire régner la justice sociale. Et ils se sont précipités sans prudence, et puis peut-être le Saint-Esprit était en vacances ce jour-là, en week-end à Lourdes, et ça leur a échappé. Mais si vous regardez aujourd'hui, hein, monsieur Houbard disait encore, vous avez un grand-père jésuite très important qui a écrit une histoire de la pensée de Marx. C'est un volume de 600 pages qui a formé 2 générations d'étudiants, qui est directeur d'une très grande revue jésuite en France, et qui vient de faire un petit livre dans lequel il dit non, le marxisme n'est pas mort, il y avait dans le marxisme des bonnes choses.
Il faut dire, pardon de vous couper, mais c'est très 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 exactement les propos que le pape a tenus il n'y a pas très longtemps à un journaliste italien que Bernard Anthony connaît d'ailleurs. Moi j'ai pensé que c'était une forgerie cette histoire, or ça a été tout à fait confirmé par l'Osservatore Romano. Il y a de bonnes choses dans le communisme.
Non, c'est pas tout à fait ça qu'il a dit. Mais je finis mon point, oui, si vous voulez. Ce qu'il nous dit, c'est un père qui a cherché justement à faire travailler ensemble les communistes et les chrétiens.
C'est Calvez, non?
Non, je ne peux pas dire son nom. Alors, il nous dit, bon, il y a des choses, il y a un tri à faire, il faut, tout n'est pas mauvais, le marxisme c'était pas vraiment une science comme on nous l'a dit, et puis le rôle dominant du parti, il faut peut-être, c'était peut-être pas une bonne idée, mais quand même, l'analyse marxiste, ça reste un instrument extraordinairement utile. Alors, moi j'ai dit aux évêques, mais Seigneur, quand j'entends ça, je saute en mer. C'est comme si on me disait, après tout, Hitler, c'était pas un mauvais type, à part quelques gamineries avec la Wehrmacht.
C'est ce qu'a dit l'abbé Pierre l'autre jour, il a dit que Hitler, au moins, il avait de bonnes idées pour le chômage.
Aux Juifs, c'était un bon type, puis il y avait quand même beaucoup de choses à garder de son enseignement. Moi j'étais ici pendant la guerre, évidemment je veux pas garder quoi que ce soit de l'enseignement d'Hitler. Mais ça, il me fait sauter en l'air quand il laisse dire des choses comme ça. Voilà.
Alors, mais est-ce que vous n'avez pas l'impression, Jacques Paterno, pour en revenir à la question que j'essaye de poser depuis le début, mais j'ai du mal à formuler, au fond, est-ce que la vraie raison, c'est pas du tout que ces gens-là sont pas du tout des imbéciles, contrairement à ce qu'ils apparaissent, mais sont réellement des subvertisseurs du système, des gens qui sont infiltrés dans le système pour le casser de l'intérieur? Alors Bernard, je vous donne la parole dans juste après, je sais pas.
Non, je crois que simplement ils sont sortis du domaine de compétences. Vous avez remarqué, peut-être si vous avez lu mon livre, que je n'y parle pas de musique. Je ne parle pas de musique parce que je suis totalement incompétent.
D'ailleurs, il aurait pu s'intituler Sans tambour ni trompette.
Oui. simplement, alors moi je les invite à la fin du livre à revenir à l'enseignement du pape et à sortir de ces problèmes économiques et politiques où ils n'ont rien à faire. Parce que justement, l'enseignement du pape, on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, a beaucoup changé sur ces points-là.
Je vois que Bernard Anthony boue.
Non, non, je ne boue pas. J'écoute avec attention. J'approuve beaucoup de choses qui sont dites. Je pourrais peut-être apporter juste quelques nuances. Non, je ne pense pas d'abord que les évêques soient marxistes ou aient été marxistes, parce que d'abord, il y a eu très peu de marxistes. Et lorsqu'on parle du marxisme, moi, je ne connais pas. Moi, je suis un homme d'entreprise, j'ai pratiqué la CGT, j'ai un peu d'expérience contre-révolutionnaire, et je voudrais qu'on ne se trompe pas. Ce n'est pas le marxisme qui convainc. Les gens qui ont lu Marx, il y en a très peu. Et il y a d'ailleurs, il est vrai, dans Marx, encore des choses de considération, après tout, que je peux faire mienne, des outils d'analyse, pourquoi pas. Martinez développe ça très bien, mais après tout, moi aussi. Donc, ce n'est pas ça qui est grave. Des évêques qui aient lu Marx, moi, je n'en connais pas. J'ai quand même écouté beaucoup d'évêques. Alors, je crois que le problème très fondamental de l'Église catholique dans le monde moderne est celui-ci. Il est très mystérieux. Et on ne peut pas en traiter très légèrement, et je ne voudrais pas en traiter ce soir superficiellement. Il y a le fait que l'Église, après la tempête de 89, préparée d'ailleurs par un lent travail de sape dans l'ordre des idées, c'est vrai, cette Église-là, qui a eu ses martyrs à la Révolution, va quand même se rallier aux idéaux de la Révolution. Premièrement, liberté, égalité, fraternité, c'est le ralliement, c'est l'idéologie des droits de l'homme. L'Église va essayer de faire un bon ménage avec, comme elle a toujours essayé de faire un bon ménage avec les puissances temporelles. Moins il est vrai dans le catholicisme que dans l'Église orthodoxe, mais c'est comme ça. Bon, cette Église-là, c'est celle d'un pape qui va après tout sacrer Napoléon. Et puis ensuite, cette Église va être fascinée, mais pas par l'idéologie. Je les ai pratiqués. J'ai été secrétaire fédéral de jeunesse étudiante catholique. J'ai côtoyé des évêques de très près. J'ai des amis d'enfance évêques aujourd'hui. Une minorité d'entre eux sont des intellectuels. La plupart ne sont pas très brillants intellectuellement, tels que je les connais. Bien sûr, Mgr Lustiger est quelqu'un de très brillant intellectuellement. Je peux vous en citer encore 4 ou 5. Ensuite, c'est le désert. Pourquoi cela? C'est Marcel de Corte qui aimait à citer la chose. Parce que quand on nomme un évêque, que se passe-t-il? Le Vatican veut un saint, la République voudrait une fripouille, et on s'entend sur l'imbécile. Et je crois que c'est assez vrai. Moi, je n'ai pas côtoyé des pervers, je ne pense pas que les évêques soient tous des pervers. Mais je pense qu'il y a une majorité de pauvres types, c'est vrai. Ils n'ont pas lu Marx, tout ce qu'ils en ont lu, alors là, ils en ont fait ensuite une déglutition, ils en ont autour de Marx, mais ils sont fascinés par le communisme. C'est la fascination pour la puissance. Et voilà pourquoi ils ont été, d'une manière générale, il faut le dire, en dehors des saints, en dehors des martyrs, très souvent, c'est ainsi fait, parce que les ecclésiastiques sont souvent des pauvres types. Et là, je reviens à Marcel de Corte, qui est un des plus grands philosophes contemporains, il faut le comprendre, pour être un aristocrate, au sens véritable du mot, il faut être un petit peu bien, il faut avoir toutes les vertus. Mais au fond, pour être un prêtre, je crois qu'il y a une espèce de différence que la religion veut affirmer entre la grandeur du sacerdoce et la pauvreté de la réalité humaine. Alors, il y a donc cette fascination pour la puissance. Ils ont été fascinés par le communisme. Je pourrais vous dire comment, parce que c'est par la praxis qu'ils ont été pris. C'est pas du tout par la lecture de Marx, parce que dans les séminaires, on n'enseignait plus rien. Et notre ami qui a été au Brésil sait comment ça se passe.
En Colombie.
Qui a été en Colombie, au Brésil, c'est la même chose. Mais c'était la même chose dans les syndicats. C'est donc par des techniques, tout simplement, viens avec nous, engage-toi. C'est comme vous le dites, je crois,
rejoins tes camarades.
D'avoir la volonté, rejoins tes camarades, etc. Alors, il y a ensuite les pervers. Les pervers, c'est l'abbé Pierre. Et à ce sujet, je voudrais dire ici que la lettre ouverte que je lui ai envoyée a été publiée par présent. Bien sûr, elle a été publiée dans Reconquête, mais j'ai reçu beaucoup de lettres après la publication dans la lettre de Jean-Marie Le Pen. Et là, bon, c'est très bien, mais hélas, là, c'est une lettre tronquée. Alors, s'il y en a qui veulent le texte intégral, parce que je considère que l'abbé Pierre est l'exemple même du pervers, lui. Parce que lui, il a de l'intelligence, lui, c'est un politique, et lui, c'est une fripouille authentique. Et lui, il est très exactement le disciple d'Engels. Dans le prolétariat, ce qui nous intéresse, ce n'est pas qu'il est pauvre, c'est qu'il est une force. Et alors là, oui, c'est vrai, nous avons de véritables évêques révolutionnaires. Mais nous avons ensuite, je reviens à mon propos, et j'en termine là, ceux qui sont fascinés par la puissance, fascinés par le monde, et je voudrais dire très gravement encore ce soir qu'on m'a reproché une soi-disant dureté de mes paroles avec le cardinal de Courtrai. Or, on peut observer que je ne suis pas dur avec les évêques. J'essaie de comprendre certains d'entre eux, même si je ne suis pas d'accord. Eux, quand vous dites qu'ils sont bons, mais pas avec nous en tout cas, parce qu'ils nous ont toujours refusé le dialogue. Mais pour ce qui est du cardinal de Courtrai, il est l'exemple typique de ces hommes qui ont été fascinés par le communisme. Il le dit, il l'a avoué. Très bien, monseigneur. Mais aujourd'hui, alors que le communisme s'est effondré, le moins qu'on puisse dire, c'est pas grâce à lui, est-ce qu'il bat sa culpe? Il ne bat pas sa culpe, il est fasciné par les nouveaux maîtres du monde. C'est-à-dire par la forme supérieure de subversion qui suit le communisme, parce que le communisme n'est qu'une première étape en quelque sorte. C'est le mondialisme caricatural, stalinien, béton, blocos. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Alors là, le cardinal, eh bien, on le voit fasciné par les puissances du jour. Et je dois dire que là, je tiens ce soir à dire encore que ceux qui, dernièrement, me disaient « Mais tu sais, le cardinal de Courtrai a beaucoup de repentir. Il nous l'a dit de la façon dont il s'est conduit après Carpentras. » Alors ça, c'est un prêtre qui m'a affirmé cela récemment. Je dis à ce prêtre « Ou c'est vous qui mentez, je ne nommerai pas, ou c'est le cardinal qui vous a menti. » Parce que dans Tribune juive de cette semaine, le cardinal de Courtrai explique d'abord combien il a été celui qui a voulu l'expulsion des carmélites d'Auschwitz. Bon, c'est une autre affaire, mais il dit ceci, j'avais honte, je ne voulais pas revoir Theo Klein, parce que je lui avais promis qu'elle partirait, ça ne venait pas, heureusement il m'a réconforté, tous mes amis juifs étaient avec moi, et ils m'ont encouragé pour poursuivre le combat pour l'expulsion des carmélites d'Auschwitz. Bon, ça c'est une autre affaire. Mais deuxièmement, ensuite, le tribune juif l'interroge et lui dit quelles sont vos relations précisées encore avec la communauté. Ben, il dit, vous vous souvenez bien de la manifestation après Carpentras. Et là, que dit le cardinal dans tribune juive de cette semaine? Eh bien, je me suis rendu à la manifestation. Le grand rabbin, qui est un ami, m'a pris par le bras. On m'a reproché d'avoir commenté cette attitude, ben, le cardinal de Courtrai confirme. J'avais ma récalter à ma droite, vous voyez, j'étais en bonne compagnie. Et il ajoute, il y avait aussi Edith Cresson et le gouvernement. Nous sommes allés ensuite prier à la synagogue. Il n'y a pas un mot de repentir. Parce qu'enfin, le cardinal de Courtrai, là, 2 ans après, maintenant ou combien, 2 ans, un peu plus, 2 ans et demi après, c'est très bien ce qu'il en a été de Carpentras. Et voilà donc, il réitère, c'est-à-dire que le jour même au mépris de toute prudence, au mépris de toute sagesse, lui qui est un homme dont on peut penser qu'il a un certain recul, il est de l'Académie française, il va dans une manifestation de lynchage public de Jean-Marie Le Pen. Et ça, je ne lui pardonnerai pas, parce que je n'ai pas à pardonner les offenses qui sont faites aux autres. Ma religion me convie à pardonner les offenses qui sont faites à moi. Moi-même ici, car je ne pardonnerai jamais, l'équipe de TF1 qui me surprend chez moi un soir, pour qu'il traque la piste tarnaise de Carpentras, des auteurs de Carpentras, car j'ai été désigné à l'époque. Hein, c'était admirable. On vient me demander si je n'ai pas des relations avec des sectes sataniques, etc. J'ai foutu les journalistes de TF1 dehors, bien évidemment. Mais enfin, le cardinal n'a rien fait. Il défile sous les panneaux où Jean-Marie Le Pen est empalé. Bon, eh bien, cela, moi, pour cette ignominie, je ne pardonnerai pas au cardinal, mais je constate que dans Tribune Juive, il se comporte encore, faisant semblant de croire que Carpentras, donc c'est une ignominie antisémite, alors qu'on sait très bien que c'est une provocation des amis du cardinal de Courtrai.
Alors là, je voudrais rajouter quelque chose, un document que je possède, très important, et qui va tout à fait dans le sens de ce que vous venez de dire quand vous dites qu'ils vont du côté de la puissance et qu'en même temps ils ont été pris par la praxis. Ici, je peux vous affirmer que je possède, je peux le faire lire avec qui voudra, des opuscules, les sermons de carême qui ont été donnés à la Libération par celui qui deviendrait le révérend Père Riquet, hein, qui à l'époque, on lui avait confié les sermons de carême. Et dans ses sermons de carême, il a cité une longue phrase de Joseph Staline d'une manière très agréable et très sympathique, n'est-ce pas, puisque c'était parmi tous les grands vainqueurs. Or, on sait naturellement que le révérend Père Riquet avait été déporté, donc dans la praxis, il avait été pris dans cet engrenage. Il est quand même scandaleux que dans ses sermons de carême, où il s'adresse au peuple chrétien, il fasse une longue citation de Joseph Staline, dont il ne pouvait pas ignorer le caractère criminel. Bon, et ça, c'est imprimé, je l'ai. Ça, le révérend père Riquet.
Merci. Un exemple. Qu'est-ce que vous pensez, Jacques Paterneau, de cette analyse, c'est-à-dire de cette explication du comportement des évêques, fascinés par la puissance, fascinés par le pouvoir en place, quel qu'il soit, fascinés hier par le marxisme et par le communisme, surtout par le communisme, fascinés aujourd'hui par le mondialisme?
Bon, tout remonte à Pépin le Bref. Pépin le Bref a joué un très méchant tour à l'Église le jour où il s'est allié avec elle pour conquérir les royaumes lombards. Donc c'était au 8e siècle, je ne me rappelle plus tout à fait la date. Mais il conquiert les royaumes lombards et il donne une partie des royaumes lombards à la papauté. Et depuis ce jour-là jusqu'à 1870, donc pendant un peu plus de 1000 ans, la papauté a été a eu une puissance territoriale. Avant, l'Église était strictement spirituelle. Alors elle l'est redevenue, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, elle n'est pas riche. Alors, il y a toujours eu une longue tradition de rapport avec les pouvoirs en place, et l'Église a été longtemps aussi un pouvoir temporel. Je ne fais pas tout à fait l'analyse de M. Anthony là-dessus. Ils sont obligés d'avoir des rapports avec les pouvoirs.
Oui, ils sont obligés d'avoir des rapports, mais ils sont pas forcés quand même d'adhérer.
Je suis d'accord avec lui quand il dit qu'ils n'ont pas tous lu Marx, mais ils ont tous, plus ou moins, dans le passé en tout cas, et pour les années auxquelles je me réfère, c'est-à-dire les années où ils étaient au séminaire, ils ont tous avalé de la vulgate marxiste.
Mais en tout cas, il y a une chose que vous dites dans votre livre, c'est que, et là j'en reviens à la question fondamentale du livre, c'est que ce sont des gens qui ont l'habitude d'émettre des opinions et d'avoir des opinions, c'est-à-dire de pratiquer des opinions, de prendre des positions sur des questions dont ils ignorent le minimum.
C'est ça
vous leur dites, d'ailleurs, je voudrais citer cette phrase parce que je la trouve superbe, vous leur dites, vous étiez entré triomphalement sur la scène de la finance internationale sans connaître votre texte, je crois que vous feriez bien d'en sortir au plus vite car ce n'est pas votre terrain.
C'est ça. Et j'ajoute d'autant plus que le pape a réconcilié
l'économie avec la religion.
L'économie avec la religion. Alors ça, on ne va pas rentrer là-dedans. Mais c'est ça le grand reproche que je leur fais, c'est qu'ils sortent de le terrain où ils sont compétents. Ils ont abandonné pendant des années la morale à Jack Lang et à ses co-auteurs, pas pour nous parler de sociologie et d'économie. Et ça, ça a créé un désastre. Si vous regardez ce qui se passe en France, vous pouvez aller en Amérique latine, au Nicaragua, ils ont été... Alors moi, je suis tout à fait d'accord qu'on renverse M. Somoza, c'était un ignoble personnage, tout à fait. Ce qu'il fallait pas, c'était installer un système marxiste à la place. Au Salvador, ils ont empêché, par leur prise de position, toute solution positive, jusqu'à la fin du mur de Berlin. Alors après, on a pu commencer à essayer de mettre en place des solutions plus démocratiques. Au Brésil, ils ont failli, on peut dire, faire prendre le pouvoir à des gouvernements qui étaient très marxistes. Aux dernières élections, ils ont pris parti massivement avec... Alors, attention, c'est qu'il y a les stations de radio, les stations de télévision, il y a les journaux, etc., massivement pour un candidat qui s'appelle Tula et qui était un marxiste pur et dur. Bon, c'est pas que le président qui a été élu a été beaucoup plus brillant, au contraire, mais je veux dire, ils sortent de leur domaine pour entrer dans le domaine politique.
Et d'ailleurs, quand ils sont dans leur domaine, ils se comportent généralement d'une façon que je qualifierais pas, Moi, je laisserai aux auditeurs le soin de la qualifier cette façon, en prenant l'exemple de leur comportement en ce qui concerne le débat sur le financement de l'école libre. Je me souviens très bien qu'en 84, quand les grandes manifestations de défense de l'école libre ont été organisées en France, les principaux adversaires de ces manifestations étaient les évêques, qui passaient leur temps à dire « attention, méfiez-vous de la récupération », et qui passaient leur temps à minorer l'importance du mouvement qui se développait, qui était un mouvement quand même extraordinaire. Et là, dans un auditeur nous le fait remarquer, une auditrice plutôt nous le fait remarquer, à l'occasion de la loi Falloux, du lancement de la loi Falloux et du retrait de la loi Falloux, les évêques, une fois de plus, se sont conduits comme des collabos. Je crois que c'est ça le fond. Le fond de leur mentalité, c'est que ce sont des collabos. Ce sont des gens qui essayent de se mettre bien avec leurs ennemis. Ce sont des libéraux, c'est-à-dire qu'ils pensent que l'adversaire a raison.
Il faut tout de même, par...
Non, ce ne sont pas des libéraux. Pas au sens où...
Il faut tout de même, par justice, dire un mot. C'est un certain nombre, et le cardinal de Courtrai, avec lequel je ne suis pas suspect de collaborationnisme, lui-même, comme monsieur Honoré, ont pris des positions courageuses, enfin, trop tard d'ailleurs, enfin, sur la question de l'avortement. Faut verser ça.
Alors, j'allais en parler.
Je veux dire, Il y a chez certains peut-être une petite reprise, si je pouvais dire, de conscience. Mais ensuite, je crois que, effectivement, leur comportement, comme tu dis, Serge, ce sont des intellectuels, des hommes de communication, mais la plupart, non. Non, ils ont peur de parler individuellement. Tout le drame, c'est la crise du courage. Parce que j'ai un jour disserté sur le sujet, notre époque vit une triple crise, de la foi, de l'intelligence et du courage. Mais en réalité, les gens deviennent bêtes par manque de courage. Roger Olyndre, c'est cela. C'est la peur qui fait dire des... Passez-moi l'expression, des bêtises à beaucoup. Alors là, je pense que chez les évêques, ils parlent toujours au nom des autres. Il y a un problème là. Alors là, c'est vrai, c'est de la praxis communiste. Ils sont manipulés par les bureaux. Ils sont conditionnés par une dynamique des groupes que l'on peut analyser dans d'autres endroits. Parce que on parle des évêques ce soir. On est dans une crise de société. Il n'y a pas que. Ils sont la conséquence de cette crise. Et ils ne sont pas seulement la cause. Parce qu'on pourrait parler des patrons aussi. Moi, je peux vous en raconter sur le patronat français, sur sa bêtise, la façon dont il s'est laissé conditionner, la façon dont il y a aussi des bureaux au CNPF, la façon, tout à l'heure on faisait allusion au pétrolier, mais il y aurait toute une vaste fresque de la responsabilité patronale dans ce pays qui a laissé le fric à la gauche. Parce qu'enfin, Roger en parlerait certainement des heures durant, et moi aussi, j'ai jamais vu affluer le financement patronal dans les caisses de nos malheureuses organisations. Donc c'est pas, je vous voudrais
aussi
pas...
Bizarre
là, quand on permette, parce que quand je suis avec d'autres, je suis très dur pour les évêques, mais quelquefois, là, dans une telle assemblée, quelquefois, il faut un tout petit peu amender, parce qu'il n'y a pas que, ils sont un peu à l'image de notre société. Tout le drame, c'est qu'il devrait être autre chose. C'est-à-dire, en réaction contre cette société, ben, globalement, collectivement, ils n'en ont pas le courage, même si deux ou trois en privé.
Et il y a une autre, je vais citer une anecdote à propos de courage, parce que je la trouve très drôle. Je donnerai pas de nom non plus, parce que, en plus, c'est pas un des plus mauvais, il s'en faut de beaucoup. Mais, Philippe Varlet fait remarquer une chose, c'est que, une des raisons de la dilution du courage, la disparition du courage des évêques, c'est la collégialité. C'est-à-dire que maintenant, dans le diocèse, c'est plus l'évêque qui est le patron, c'est une espèce de collégialité qui décide d'une façon anonyme et vagabonde, et le résultat, c'est que l'évêque a toujours la possibilité de se camoufler derrière la collégialité, et vous dit en privé d'ailleurs, ah ben moi je suis pas d'accord, mais enfin bon, je peux rien dire sans mettre en cause mes confrères.
Mais c'est comme ça au RPR, c'est comme ça à l'UDF, c'est comme ça dans le patronat, il n'y a plus d'individualité. Mmh. Et notre époque qui exalte le plus l'individualisme, Lyoté l'avait d'ailleurs fait remarquer, c'est celle qui dispose le moins d'individualité. Parce qu'effectivement, nous sommes une époque de conditionnement bureaucratique, plus encore conditionnement médiatique, et c'est pour ça que je crois qu'on est tout de même ici, quelques-uns et ailleurs, heureusement, quelques hommes libres, mais ce sont les hommes libres qui disparaissent aujourd'hui.
Oui. Alors, l'anecdote que je voulais raconter, elle tient en très peu de mots. J'étais encore rédacteur en chef d'un grand hebdomadaire de la droite nationale, quand un jour un ami me montre des photos splendides d'un des évêques français qu'on avait l'habitude de voir, je dirais pas en blue jean, mais enfin disons, vous savez, habillé comme s'habillent les curés, c'est-à-dire en vieux costume tout chiffonné avec une cravate à rayures et une chemise à pois ou le contraire, on avait plutôt l'habitude de le voir comme ça. Et là, je vois des photos magnifiques de cet évêque qui présidait une messe pontificale dans toute la splendeur de l'apparat traditionnel avec la capa magna. Enfin, c'était vraiment un document superbe. Et je dis, comme cet évêque n'est pas le plus mauvais de la bande, je dis, tiens, voilà une occasion de montrer qu'après tout, il y a encore des évêques qui ont un peu le sens de leur statut de prince de l'Église. Et je vais publier cette photo dans le journal en disant, bon, on a tendance à croire qu'ils sont tous des petits marxistes à la mort l'œil. Et ben non, en voilà un qui est quand même, dans son rôle de prince de l'Église, il est superbe. Et on me fournit toute une série de photos. Je me prépare à publier, et l'ami qui m'avait fourni les photos me téléphone affolé la veille du bouclage en me disant, écoutez, je vous en supplie, ne publiez pas ces photos. Quand j'ai parlé à Monseigneur de ce projet, il était épouvanté à l'idée qu'on pouvait le montrer. Alors autrement dit, voilà, c'est tout. Le seul fait d'être vu dans sa tenue naturelle de prince de l'Église l'avait plongé dans les affres. Alors j'ai retiré cette photo, on ne l'a pas publiée, et tout le monde croit que cet évêque passe sa vie en costume de pièce, même pas croisé. Voilà. Merci, Jacques Paternot. J'espère qu'on a donné envie de lire votre livre, parce que il est tout à fait salutaire et reboratif, coup de pied, allez, disons dans la fourmilière, pour rester poli.
Vous rappelez les références?
Alors, le titre, ce livre s'appelle « Lettres recommandées aux évêques en quête d'un emploi » et il est paru aux éditions du Rocher. Et il est de Jacques Paternot.
Et il coûte ?
Alors ça, j'en ai pas la moindre idée, mais il doit coûter à peu près le prix de tous les livres aujourd'hui, oui. C'est-à-dire 100 francs environ.
Je lis, mes amis froufrous. Donc Bernard Anthony, rebonsoir.
Re.
Maintenant, monsieur Paternot nous ayant quittés avec son pamphlet, plutôt sa lettre recommandée aux évêques en quête d'emploi parue aux éditions du Rocher. Nous sommes tous réunis autour de ce micro, Bernard Anthony, Roger Lindre et Jacques Houbard, qui est resté avec nous, je l'en remercie. Bernard, un auditeur demande ce que vous pensez des propos tenus par le conférencier de Notre-Dame le dimanche d'avant les rameaux, qui aurait dit, mais je pense qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute le récit de notre auditeur, que les chrétiens et les juifs attendent le même Messie.
Oui, alors, je ne suis pas venu pour faire une discussion théologique ce soir. Je dois dire, tu me prends un peu...
Ça oui, reste alors, un peu bleu-marine.
Oui, bah, oui, mais en fait, tout dépend. C'est peut-être un présent de narration, peut-être parle-t-il... Enfin, je ne comprends pas bien.
Non.
Je comprends pas bien. Parce que ce que j'ai vu sur les murs de Paris... C'est ce que craignait d'ailleurs le grand rabbin Citrude dans Tribune Juive, qui dit « J'ai beaucoup d'admiration pour le rabbi de Lubavitch ». Alors j'en profite parce que je vais vous raconter peut-être une anecdote, parce que j'en ai assez de traités de racistes, alors que nous ne le sommes pas, nous ne le sommes authentiquement pas, et Roger Hollandre développe ça toujours admirablement. Mais alors je vais vous raconter une anecdote. Dernièrement, au Conseil régional de Midi-Pyrénées, Monsieur Tridano, le frère d'André, de celui du club Méditerranée, qui est un homme charmant, me dit, tiens, ça va te faire plaisir, voilà le journal de notre communauté juive de Toulouse. Et je lis ce journal, j'ai de très bons rapports avec André Tridano, je lui dis, mais dis donc, c'est insupportable, ton journal fait de la publicité pour la secte des Lubavitch. Il me dit, oui, et alors? Eh bien, je lui dis, tu vas m'entendre tout à l'heure. Et en public, j'ai dit ceci. Voici, ici, dans cette enceinte, on fait propagande pour une secte qui professe. Et je cite mes sources, c'est d'ailleurs cité par Gilles Kepel, qui n'est pas un antisémite, n'est-ce pas, dans le règne de Dieu, qui professe donc, alors j'ai donné les références, qu'entre le règne juif et le règne humain, il y a beaucoup plus de distance qu'entre le règne humain et le règne animal. Alors si ça, c'est pas du racisme pur porc, si j'ose dire, qu'est-ce que c'est alors? Alors effectivement, le rabbi de Lubavitch a annoncé sur les murs de Paris, Stian Ketiel, le grand rabbin Citrude, vous avez pu le voir, en 4x3, Meshia arrive. Alors, si les chrétiens attendent ce Messie, et si un prédicateur de Notre-Dame attend celui-là, alors là, qu'est-ce que vous voulez? Les bras m'en tombent, Les bras vous en tombent des mains. Dire, les bras m'en tombent des mains. Alors, on ne va pas commenter si cela a été dit. Je ne mets pas en doute l'auditeur qui dit cela.
Voilà. On va donc cesser de dire du mal des évêques, puisqu'on va maintenant parler d'autre chose. Mais avant...
Vous avez des messages
sur le sujet.
Vous avez deux minutes, et puis après, on passe à...
Sur les évêques en général, Jean XXIII, lorsqu'il était nonce à Paris, a été inquiet de la renaissance du gallicanisme. Et il a conseillé de choisir pour la France des hommes sans grande personnalité comme évêques, ce qui explique la médiocrité générale des évêques de France.
Alors, pour une fois, pape a été entendu. Alors.
C'est une auditrice qui nous dit ça. À propos du père Riquet, on nous dit qu'en 1947, il a défendu les victimes de l'épuration. Donc, il a dû tourner après. Et une auditrice nous rappelle...
Non, il n'a pas tourné, il a été parfaitement honnête. Il avait ses idées.
Jacques Houbard disait qu'il avait cité favorablement Joseph Staline, mais ça ne veut pas dire qu'il était partisan de la boucherie épurative. Il a toujours... Ça a été un homme, finalement, d'une grande honnêteté, le père Riquet. On dit qu'il était franc-maçon, il y a un auditeur qui nous téléphone en disant « tout le monde le sait ». J'en sais rien, je sais qu'il avait d'excellentes relations avec les francs-maçons, ça c'est vrai, et qu'il les a toujours défendus, et qu'il a prêché pour la suppression de l'excommunication, sans y parvenir d'ailleurs, puisque je rappelle une fois de plus que l'excommunication est toujours valide pour les francs-maçons. Je dis ça surtout pour des amis catholiques qui sont parfois...
Est-ce que je peux faire une petite mise au point? Il y a un auteur dont on ne parle jamais et que pour moi qui a beaucoup compté, qui m'a appris beaucoup de choses, c'est René Guénon. René Guénon était très fort en matière de franc-maçonnerie. Et il explique très bien qu'il n'y a pas la franc-maçonnerie, ça ne veut plus rien dire. Il y a eu trois, mettons, on peut dire qu'il y a trois franc-maçonneries même dans le temps. Il y a eu celle d'avant le XVIIIe siècle qui a été détruite par deux pasteurs protestants qui ont détruit toutes les archives métaphysiques et tout le message ésotérique qu'il y avait dans la franc-maçonnerie, et en même temps ils ont gommé tous les liens que la franc-maçonnerie traditionnelle avait avec l'Église catholique et avec le pouvoir royal. Et justement pour cette raison, les protestants ont détruit la franc-maçonnerie traditionnelle. Et après il y a eu donc une franc-maçonnerie mais qui était encore très imprégnée de spiritualité. C'est la franc-maçonnerie, disons, grosso modo, de ces deux protestantes. Et cette franc-maçonnerie, elle a duré, il y en a encore aujourd'hui, qui sont encore dans cette lignée spiritualiste. Mais il y a eu le Grand Orient. Il y a un siècle environ, le Grand Orient a été fondé. Alors là, ils ont détruit, ils ont déchiré le livre, le grand architecte de l'univers.
Ça, ce sont des... Enfin,
c'est le Grand Orient.
C'est la thèse de Guénon. Qui lui-même était franc-maçon et était gnostique. Ce sont des finesses dans lesquelles je n'entre pas tellement.
Je voudrais tout de même intervenir pour dire, personnellement, je combats la franc-maçonnerie pour des raisons que je peux développer. On ne va pas faire une émission spéciale ce soir. Mais je la combats d'une manière comme le communisme, d'ailleurs, primaire, secondaire, tertiaire et systématique. Ça n'empêche pas de reconnaître qu'il y a des francs-maçons qui peuvent être parfaitement honnêtes. Le père Riquet aurait-il été franc-maçon, ça n'empêche pas de reconnaître qu'il a une attitude loyale et qu'il ne hurle pas après les loups, avec les loups à la libération, de même que le grand maître de la Grande Loge qui était Richard Dupuis, va défendre les inculpés de l'Algérie française, va se porter au secours du général Salan, et c'était un homme sur le plan patriotique parfaitement droit.
C'était mon ami en plus, et je peux dire que deux ou trois jours avant sa mort, il m'avait téléphoné justement pour me dire qu'il commençait à en avoir assez de voir et d'entendre les évêques et de voir l'Église aller à volo. C'était un catholique traditionnaliste.
Ces choses étant dites, je voudrais rappeler, c'est que le distinguo subtil entre franc-maçonnerie athée et spiritualiste, ce n'est pas un distinguo, on peut le faire, mais il ne faut pas en tirer des conclusions, parce que la maçonnerie certainement la plus dangereuse, c'est celle que l'on peut qualifier, qui se qualifie de spiritualiste. Il faut voir là-dessous ce qu'on met, de quelle spiritualité il s'agit, et j'ajoute enfin que les francs-maçons, dans leur travail tous les jours, donc se réunissent dans des fraternelles, et que les fraternelles, par branche professionnelle, réunissent les francs-maçons de toutes les obédiences spiritualistes ou athées, et que la pénétration dans le maçonnique de la société se fait par les fraternelles.
Ce que je propose, c'est qu'on fasse un jour une émission, alors Jacques Coubard, vous viendrez.
Moi, de toute façon, je pose la question, moi ça m'intéresse, moi je ne suis pas un spécialiste, mais je croyais que le Grand Orient avait comme joué un rôle catastrophique en France.
Oui, mais oui. Pas tout seul.
Pas tout seul, je crois.
Ah bon.
Enfin, on pourra en parler en approfondissant la question et en parlant de Guénon.
Une auditrice nous demande de ne pas oublier la mémoire du prédécesseur du père Riquet, le père Panici, qui était à Notre-Dame en 1945. Mmh. Un auditeur nous dit qu'il est normal que la religion catholique soit la seule attaquée, puisque c'est la seule vraie. On nous rappelle que le Concile Vatican II a assassiné la grâce sanctifiante et donc le Saint-Esprit n'agit plus, donc tout va mal, voire la bulle de Paul.
Non, on peut pas le laisser passer des choses comme ça. On peut pas assassiner le Saint-Esprit, même le Concile aurait-il.
Non, c'est pas ce qui est dit. Oui. Ce qui est dit, c'est que le Concile ayant évacué la grâce sanctifiante, effectivement, les évêques qui sont issus de ce Concile ne sont plus bénéficiaires de la grâce sanctifiante.
Et enfin, on nous demande de parler.
Bernard Anthony, en défenseur du Concile, j'aurais tout
vu. Non. On nous demande de parler. C'est à peine exagéré, en somme. Et on nous demande de parler du livre Le siècle de l'enfer, préface de Jean Madiran, de Gustave Corsao, édition de Sainte-Madeleine du Barreau, qui explique vraiment tous ces problèmes.
On y consacrera une émission prochainement, parce que je crois que c'est un grand livre très important, mais on ne peut décemment pas en parler en deux minutes. Il faut simplement conseiller de le lire.
Et enfin, de nombreux messages qui disent « Bravo pour l'émission, Monsieur Anthony vient d'exprimer tout ce que nous pensons. »
Ben, il va continuer, puisqu'on va parler de quelque chose qui le concerne directement et qui est en train de se produire, qui est la publication de son livre, qui est un recueil de textes, de messages, de lettres ouvertes, etc. Alors Bernard, bon, j'ai commencé à faire semblant de te tutoyer, de te vous soyez, mais je sens que je ne vais pas y arriver. Alors je tutoie depuis tellement longtemps qu'on va continuer.
Oui, voilà.
Tu as donc, depuis quelque temps, tu sembles avoir été repris par une espèce de prurite épistolier, et tu assaisonnes diverses personnes à coups de lettres ouvertes, Alors, il y a eu une lettre ouverte à l'abbé Pierre, tu en as parlé tout à l'heure, qui n'était pas piqué des hannetons, et dont on peut quand même rappeler, sans que ce soit désobligeant pour les éditeurs, que la lettre de Jean-Marie Le Pen ne donne que des extraits.
Ben oui, ce qu'elle ne mentionne pas, ce que je regrette, j'ai l'habitude de parler clair et franc, parce que lorsque on publie des extraits, on le dit. Hein, et ça enlève un peu tout le mouvement lettre. Après tout, je suis attaché à ce que j'écris, je le défends, et voilà, ceux qui veulent le texte authentique et original, je le renverrai, parce que je n'aime pas bien les coups de ciseaux, quand on ne dit pas qu'il y a coups de ciseaux.
Alors, c'est pas la seule, il y a une lettre ouverte à Pasqua.
Oui.
Alors, est-ce qu'on peut en parler de Pasqua et de cette lettre?
Alors, grâce à Jean Madiran, grâce à propre présent, il y a eu un tiré à part de cette lettre. On peut d'ailleurs se la procurer. On peut la demander à Difra Livre. On peut venir sans doute dans les locaux de présence la procurer.
Et on la trouvera le 10 avril.
Parce que tout simplement, Charles Pasqua est un des hommes les plus pervers du gouvernement actuel. Parce que tout le monde croit, mais je sais que je ne fais que pour les auditeurs de Radio Courtoisie, ça doit être des évidences, mais enfin, je voudrais dire que cette lettre ouverte, je lui ai remis en main sale, si je puis dire, quand il est venu à Toulouse récemment. Charles Pasqua est l'homme qui trompe le plus au monde. On oppose d'ordinaire Simone Veil à Charles Pasqua. Hein, et on dit, voilà, il y aurait une méchante, une affreuse, c'est Simone Veil, et il y en aurait un strogneux, c'est Charles Pasqua. Ils ont les mêmes idées, les mêmes valeurs, à part que Simone Veil, elle, on sait qui c'est. On lui fait porter d'ailleurs le poids d'une responsabilité qui n'est pas seulement la sienne. La loi sur l'avortement, c'est la responsabilité de M. Giscard d'Estaing et de M. Chirac. Mmh. C'est une loi qui a été acceptée par tout l'UDF, donc M. de Villiers y compris. dans messieurs Madelin et compagnie. Mais Charles Pasqua, lui, c'est le strogneux. Vous allez voir ce que vous allez voir. On va terroriser les terroristes. Bon, les terroristes se portent très bien. Hein. Bon, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas fait du mal à un seul terroriste corse. Et je ne parle pas des terroristes basques. Ensuite, c'est l'homme qui, dont je joue, celui qui va régler le problème de l'immigration. Bon, Serge en a parlé en début de séance. On sait ce qui se prépare en Algérie. On avait les jeunes. On va voir maintenant les intellectuels. Hein. D'ailleurs, on aura des cortèges désormais à 2 degrés. Il y aura les jeunes devant et les intellectuels derrière. Mais pour être jeune et pour être intellectuel, il faudra être de même origine. Bon, voilà. Alors Charles de Pasqua en expulse 2 et en fait rentrer 250 000. Mais bien entendu, dans ces cellules, alors là, on a traité des cellules de M. Gobert. Tout le monde sait ce qu'il en est. Je rappelle pour ceux des auditeurs qui ne le sauraient pas que c'est M. Pasqua qui met en place l'application la plus inquisitoriale qui soit de la loi Rocard-Guesso. C'est lui qui charge M. Gobert, dont nous avons dit qui il était. Je rappelle d'ailleurs dans ma lettre ouverte à Charles Pasqua qui est M. Gobert, qui a fait d'ailleurs, qui est l'auteur du montage soi-disant contre lui là, de cet attentat bidon qui se préparait, etc. Mais M. Gobert joue à se faire peur. Hein. M. Gobert est donc un ancien animateur de David, décidé à agir avec vigilance pour Israël et la diaspora. Bon, et c'est donc cet homme-là qui ferait mieux d'aller appliquer ses talents peut-être du côté d'Hébron, qui veut persuader les Français qu'il y a un énorme danger raciste et qui, pour cela, donc met en place dans chaque département, sous l'égide des préfets, des cellules donc de délation publique constituées d'UMRAP, de la LITRA, des SOS Racisme, c'est-à-dire des organisations qui font semblant de manifester contre Pasqua, mais qui sont financées par lui, qui sont reconnues par lui, alors que la GRIF que je préside, dont Serge est un des porte-parole, que l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect d'Identité Française et Chrétienne, qui est reconnue depuis des années par la Cour de Cassation, qui va de procès en procès pour défendre les Français, d'abord les chrétiens, les Français, quelle que soit leur origine, les chrétiennes, quelle que soit leur race, dont la GRIF n'est pas reconnue. Mais ça, c'est la volonté directe de M. Pasqua et de M. Balladur. Et nous pourrions continuer, parce qu'enfin, tout de même, M. Pasqua, on l'a vu aussi, nous disant à propos de Yampia, quelque chose d'extraordinaire, qu'on n'a pas assez relevé, Serge l'a relevé, Roger aussi, mais enfin, j'ai demandé à la classe, aux responsables politiques de la région, s'il souhaitait que l'enquête aille juste à son terme. C'est tout de même extraordinaire, ça,
c'est
non?
C'est Pasqua qui a dit ça.
Oui, c'est Pasqua qui a dit ça. C'est dans Le Monde. Oui, oui. Le Monde, c'est le journal officiel de la République, j'ai le texte. Voyez-vous, donc, parce que c'est vrai, les autres assassinats ne sont pas... Les enquêtes n'ont pas abouti. Mais ce qui est marrant, c'est que maintenant, l'enquête sur l'assassinat d'Yampia semble piétiner quelque peu aussi, tout autant que l'enquête sur Carpentras. Alors, M. Pasqua, je lui demande ce soir, quid de l'assassinat de Yampia, quid de l'assassinat des 12 autres assassinats qui ont été commis dans la région de Provence, quid de Carpentras. Alors, mais il faut démystifier M. Charles Pasqua, parce qu'effectivement, c'est l'homme qui fait semblant avec ses airs de faux Fernandel. Vous demandez, Pasqua est à Fernandel, ce que l'abbé Pierre est à Saint-Vincent-de-Paul. Hein. Donc, ce sont les mêmes caricatures, et les Français se laisse tromper par ces caricatures. De même que l'abbé Pierre est celui qui aura le plus utilisé la soutane. On voit bien que le pape a raison. La soutane, c'est une valeur. Il y en a un qui sait pertinemment combien la soutane est utile, c'est l'abbé Pierre. Eh bien, quant à M. Pasqua, il sait combien il est utile de froncer les sourcils, combien il est utile de rappeler que son père était gendarme, etc., etc. Tout cela pour faire une politique d'abandon national sur tous les plans, parce que nous vivons le gouvernement de la culture Cyril Collard, et on ne s'est pas aperçu, comme on le disait tout à l'heure, que M. Jacques Lang ne soit plus au ministère des Affaires culturelles.
Si tu permets, Bernard, on va écouter quelque chose. Puis à propos de... Tu viens de parler de M. Pasqua, on va quand même lui faire un petit hommage.
J'étais resté pur jusqu'à ce jour, comme un collégien, je rougissais pour rien. J'ignorais les secrets de l'amour, mais c'est bien fini, je suis affranchi. Maintenant je sais ce que c'est. Maintenant je sais ce que c'est. Enfin, je suis fixé. C'est une belle invention pour laquelle, dit-on, j'ai des dispositions. C'est rien, trois fois rien, c'est un truc à chiper. C'est un petit mouvement, il suffit de l'attraper. Maintenant je sais ce que c'est, maintenant je sais ce que c'est. Je veux recommencer. En amour, c'est comme en natation. Pour bien progresser, faut jamais stresser. Il faut doser sa respiration et ne pas crier lorsque l'on perd pied. Maintenant je sais que c'est. Maintenant je sais que c'est. Enfin, je suis fixé. C'est une belle invention pour laquelle, dit-on, j'ai des dispositions. C'est rien droit, voire rien, c'est un truc à chiper. C'est un petit mouvement, il suffit de l'attraper. Maintenant je sais ce que c'est, maintenant je sais ce que c'est. Je veux recommencer. Maintenant je sais ce que c'est, maintenant je sais ce que c'est, enfin je suis fixé. C'est une belle invention pour laquelle, dit-on, j'ai des dispositions. C'est rien, trois fois rien, c'est un truc à chiffrer. C'est un petit mouvement, il suffit de l'attraper. Maintenant je sais ce que c'est, maintenant je sais ce que c'est. Je veux recommencer.
Et bien voilà, maintenant je sais. C'était pas Pascoué qui chantait, c'était Fernandel. Bernard Anthony, en dehors de ces lettres ouvertes à l'abbé Pierre, à Pascoua et à diverses personnalités, tu viens de publier tout récemment un tract très court mais très bien senti à propos de monsieur Jean-Yves Hippolyte Abrère. Alors Jean-Yves Hippolyte Abrère, il faut rappeler que c'est l'actuel président du Crédit National qui a été mis à la tête du Crédit National pour le récompenser d'avoir fait perdre à peu près 25 milliards au Crédit Lyonnais.
Oui, alors j'ai distribué cela parce que j'ai occupé les locaux du Crédit Lyonnais de ma bonne ville, avec d'ailleurs l'approbation totale des employés, et le tract très court que j'ai diffusé demande tout simplement la comparution de M. Abrère, qui fait l'objet d'un mandat d'amener en Suisse, parce que je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on emprisonne par exemple un petit commerçant du Lot-et-Garonne qui a pris 2 ans de prison ferme pour avoir eu un geste un peu inconsidéré contre un huissier qui venait de lui saisir quelque chose. Ce pauvre petit commerçant s'était vu refuser un crédit, et comment le responsable, il n'y a pas que lui, mais qu'on le juge. Qu'on ne le juge pas avec un lynchage, je demande qu'il soit jugé, pas comme on en juge d'autres, hein, sereinement. Bon, alors que M. Abrère soit jugé, lui et ses complices, parce que le détournement de fonds, c'est bien de cela qu'il s'agit. Le Crédit Lyonnais a jeté à grands coups de pelle l'argent des Français, l'argent de tous ceux qui m'écoutent, parce qu'il y a ceux qui sont au Crédit Lyonnais, mais enfin c'est tous les Français qui vont devoir payer aujourd'hui les 5 milliards de francs donnés à M. Maxwell. Je rappelle que l'escroc international israélo-britannique Maxwell, enterré avec tous les honneurs dus à son rang au Mont des Oliviers, en présence du gouvernement israélien qui vous donne des leçons, c'est pour ça que je vous passerai, on passera à la dernière lettre ouverte, je voudrais en dire un petit mot aussi. Donc je rappelle que M. Abrère l'a financé, que M. Tapie aujourd'hui, que les télévisions dont le mettent en place comme candidat à la présidente de la République, ce que Jean Madiran explique remarquablement dans le présent aujourd'hui, on lui fait une fleur, on ne sait pas de combien. Si c'est Roger Hollandre qui a besoin d'un crédit pour son château, est-ce que le Crédit Lyonnais va ensuite lui faire un moratoire, hein? Bon, alors je demande donc M. Abrère et ses complices, car c'est un détournement de fonds qui porte, c'est le plus grand scandale financier, bancaire en tout cas, du siècle. Bon, autrefois, ça aurait jeté les gens dans la rue. Mais on se dit un de plus. Et voilà comment 700 milliards de centimes partent en fumée, et c'est les braves gens qui nous écoutent et qui vont payer, et une fois de plus, les plus humbles sur lesquels ça va retomber. Et à propos de lettres ouvertes, mais là, j'ai réagi comme a réagi Roger Olyndre, mais j'attends ce soir, j'attends encore qu'il y ait des ministres, s'il y en a, dignes de ce nom, qui aient un minimum d'honneur pour demander des explications à l'État d'Israël. Parce qu'enfin, laisser injurier l'armée française, comme l'a fait le général Ehud Barak, chef d'état-major de l'armée israélienne, c'est quelque chose qui est inadmissible, mais là, dont j'ai lui écrit une lettre ouverte qui est dans présent aujourd'hui, je demande aux auditeurs de prendre cette lettre ouverte, la découper, de la photocopier, de l'envoyer partout dans leurs relations, dans l'armée française, que l'on fasse courir cela. Mais comment se fait-il qu'il n'y ait pas des généraux pour se lever? Une fois de plus, bien sûr, la réaction d'honneur, c'est Roger Olyndre, mais là, je préfère lui laisser la parole, parce que la défense de l'armée française, c'est lui, c'est à lui qu'elle incombe au premier rang, il l'incarne si bien. Mais moi, j'ai réagi, on trouvera dans présent ce que je dis. J'ai envoyé cela au général Barak par le biais de l'ambassade d'Israël.
Moi, j'ai envoyé une lettre ouverte que j'ai envoyée à Monsieur le Président de la République, au Président de l'Assemblée nationale, au Président du Sénat, au Ministre des Affaires étrangères, au Commandant en chef de l'armée, au Ministre des Armées, avant lui, enfin, à tous ceux qui représentent ces gens qui doivent défendre l'honneur de la patrie. Mais aujourd'hui, j'ai fait une nouvelle lettre au général israélien en lui expliquant qu'il aurait pu choisir d'autres alliés ici, parce que cet homme qui dit qu'il a été comme sous-lieutenant en stage dans l'armée française en Algérie, moi je commence à en avoir par-dessus la tête d'entendre dire les centaines de milliers de morts de la guerre d'Algérie. Hein, moi sur le terrain, j'ai vu des gens qui avaient été tués, mais qui avaient été tués au combat. Hein, pour les tuer, des copains à moi sont tombés, moi j'ai été blessé et autres. Alors on a mis au tas, c'est vrai, certaines katibas, mais enfin il faut quand même commencer à dire la vérité. Nous avons été envoyés en Algérie par un gouvernement légal, légalement élu, démocratique. Nous étions dans les armées de la République, nous servions sous les étendards, les fanions et les drapeaux de l'armée française légale. Et c'est un gouvernement socialiste qui nous a envoyés au combat. Alors lorsque le général israélien là, vient nous attaquer comme il nous attaque, il faut quand même aussi répéter que nous ne nous battions pas contre des gosses qui avaient des cailloux. Nous avions en face de nous une armée nombreuse, équipée, armée par toutes les puissances marxistes de la planète. Et ces gens en face de nous tuaient des juifs, des chrétiens et des musulmans. Et nous étions là pour défendre cette population.
Alors... Roger, je crois que pour bien comprendre ton indignation, il faudrait rapporter au moins, il faudrait que les auditeurs sachent, et ils ne savent pas tous je pense, très précisément ce qu'a dit le général Ehud Barak. Il a dit, se livrant à une comparaison entre les opérations de maintien de l'ordre de l'armée israélienne dans les territoires occupés et les opérations de maintien de l'ordre de l'armée française en Algérie, qui n'était pas un territoire occupé mais des départements français, entre autres détails, il a dit la chose suivante. L'armée française a tué en Algérie des centaines de milliers de gens. Elle a ruiné toute possibilité de coexistence entre deux peuples. Elle s'est laissée aller à d'horribles crimes de guerre. Elle a commis des meurtres. Elle a fait exploser des voitures piégées, d'abord avec l'assentiment tacite du pouvoir. Voilà ce que le général Ehud Barak, chef d'état-major de l'armée israélienne,
ce général raconte n'importe quoi, parce que pour lui répondre, hein, je peux lui dire que nous n'avons jamais dynamité une seule maison où habitaient des familles des gens du FLN. Hein, c'est quand même prouvé, c'est quand même sûr et certain. Et ce que j'aime bien, c'est que avec notre ami Bernard, on se voit très peu souvent, mais on est capable, sans se voir, sans se téléphoner, à la même heure, le même jour, de faire un papier identique aux quatre coins de la France. C'est vrai que tout cela commence à bien faire. Et pourquoi les généraux ne disent rien? Mais parce que les généraux sont nommés par le gouvernement. Pourquoi les ministres ne disent rien? Mais enfin, il n'y a qu'à voir un peu. Ils n'ont rien dit, là, dans cette affaire d'étudiants. Et quand on voit ces gosses qui descendent dans la rue, parce que beaucoup sont des gosses qui ne devraient même pas avoir le droit de sortir de l'école. Alors on nous dit oui, mais il y en a beaucoup qui ont 18 ans. Ben oui, si pour avoir le certificat d'études aujourd'hui, il faut avoir 18 ans ou 20 ans. Mais là, on peut dire aussi merci Monsieur Giscard d'Estaing. On paye toutes les bêtises de ces gens-là hein, dans les années passées. Alors ils ne sont pas descendus attaquer la banque où on avait volé le citoyen français. Ils ne descendent pas dans la rue hein, lorsque des ministres, parce que moi aussi j'en ai par-dessus la tête quand je vois Monsieur. Tous ces gens que j'ai connus, qui nous ont emmerdés pendant des années, qui étaient des extrémistes effrénés, qui venaient dans nos rangs, qui étaient contre ceci, contre cela, on n'était jamais assez à droite pour eux. Aujourd'hui, ils sont professeurs hein, de libéralisme libéral. Hein, ce sont des voleurs, des escrocs. Hein, et comme Monsieur Tapie, ils pavanent à la télévision. On n'entend jamais parler d'un type honnête, on n'entend jamais parler d'un Français qui fait son travail. Il n'y a que les escrocs qui parlent à la télévision. Et M. Field, hein, qui a l'antenne, hein, mais l'antenne, elle n'est pas à lui, on la lui a donnée pour faire des émissions, mais il s'en sert comme si c'était son antenne, son fric, comme M. Berlusconi, tout compte fait. Hein. Et il fait venir là sur un plateau 300 ou 400 personnes. Mais que représentent-ils ces gens? Que représentent ces garçons et ces filles? Personne ne le sait. Travaillent-ils bien à l'école? Vont-ils même à l'école? Personne n'en sait rien. Alors on voit quelques zozos, quelques vedettes qui se sont fait eux-mêmes et qui, grâce aux médias, viennent parler, hein, bien souvent dans un mauvais français, de la jeunesse de France. Mais c'est à se taper la tête contre les murs. Alors, le chômage, mais c'est impossible, le chômage, mais M. Balladur n'a pas de moyens, le chômage, mais vous voyez bien que ça n'est pas possible, on ne peut rien faire. Mais est-ce que personne, depuis des mois et des années qu'il y a ces discussions, il n'y a jamais un homme du Front National dans aucune émission pour dire la seule chose. Quand il y a du travail pour 10 Français, il n'y en a pas pour 15. Et si vous amenez 25 étrangers en plus, eh bien c'est pas comme ça que vous réduirez le chômage. Donc la seule façon de réduire le chômage, c'est de fermer les frontières et de réserver le travail aux Français, quelle que soit leur race ou leur religion. Je le dis tous les soirs sur toutes les tribunes et je ne suis pas le seul au front. Ils oublient toujours quand ils répètent ce que nous disons, de dire quelle que soit leur race ou leur religion. C'est-à-dire nous avons nos Noirs, les Martiniquais, les Antillais, les Guadeloupéens et tout ça. Ils ont les mêmes droits ici, chez nous, hein, dans la mesure où nous avons chez eux les mêmes droits qu'eux. Tant que ces territoires sont la France, et moi je ne demande pas qu'ils ne le soient plus, ils sont ici chez eux et ils sont français pour moi. Les Harkis qui ont choisi la France, les Sénégalais très peu nombreux qui avaient opté pour la France à la fin de la guerre et autres, les gens venus un peu de ce que fut l'Empire, qui, le couteau sur la gorge, ont choisi la France au moment des indépendances, ces gens-là ont droit aussi au travail. Alors quand ils viennent nous dire, oui mais vous, Le Pen, Hollande et tout ça, hein, Anthony, hein, vous les Français, c'est les grands blonds aux yeux bleus. Mais non d'une pipe, si on avait à s'occuper que des Français grands blonds aux yeux bleus, il y aurait du travail pour tout le monde. On n'a jamais dit ça. En y réservant le travail aux Français.
Surtout moi d'ailleurs. Hein,
oui. Alors ces gosses-là, ils n'ont pas de boulot. Mais pourquoi? Parce que l'éducation nationale n'a pas voulu leur apprendre un métier. Les Français n'ont aucune mémoire. Il y a 15 ans, 10 ans, 5 ans, 4 ans, chaque fois que les gens de la Fédération de l'Éducation Nationale, véritable armée d'1 200 000 individus, intervenaient à la télévision, c'était pour dire quoi? C'était pour dire, nous ne voulons pas former les esclaves du patronat. Et aujourd'hui, ces gens de la Fédération de l'Éducation Nationale viennent donner des leçons, au même titre que les socialistes qui ont gouverné pendant 12 ans ce pays. Alors pourquoi on n'a pas formé? Pourquoi on n'a pas formé de jeunes à certains métiers? Pourquoi on n'a pas fait la seule chose que nous avions demandé à l'Assemblée? Et je le sais, c'est moi qui l'avais demandé, que l'apprentissage à 14 ans soit rétabli. Et la ministre de l'époque qui s'occupait de ces questions me disait, mais mon cher collègue, vous savez bien que ça n'est pas possible. Mais madame le ministre, pourquoi est-ce que ça n'est pas possible de mettre les garçons et les filles en apprentissage à 14 ans? Vous avez eu la réponse? Moi, je ne l'ai jamais eue. Mais je vais la dire ce soir pour les auditeurs qui nous écoutent. parce que les hommes qui auraient formé ces garçons et ces filles étaient des hommes de métier, qui aimaient leur travail et qui ne voyaient pas le travail comme un esclavage. Et ils auraient fait de ces gosses des hommes libres, avec entre les mains un métier. Alors, ça n'était pas la peine pour cela d'aller à Bac 6, Bac 7 et autres. Moi, je dis tout simplement avec une certaine fierté, je suis écrivain, publié dans les plus grandes maisons françaises. J'ai le certificat d'études, c'est tout. Ça prouve tout simplement que le certificat d'études il y a 30 ans était supérieur aux deux bacs aujourd'hui, avec 5 ans, 6 ans ou 7 ans de plus. Et toute cette histoire de ce pays qui s'écroule est due aux évêques, nous en avons parlé tout à l'heure, est due à l'armée qui, par ses chefs, je ne parle pas des sous-officiers et des officiers de valeur qui existent encore, mais par ceux qui couvrent exactement ce que veut, ce que désire le pouvoir, on a jamais parlé à ces garçons et ces filles de l'honneur. Alors que moi, j'ai eu la joie et le plaisir pendant l'occupation, à la pension Clairbois, à Rosny-sous-Bois, d'avoir un directeur, le père Clairbois, qui avait fait la guerre de 14, qui faisait 3 ou 4 cours dans cette école, et en outre, le cours de chant, et qui, à la fin du cours de chant, jouait la Marseillaise au violon et pleurait pendant que nous, nous pleurions. Le père Clairbois était pour le maréchal Pétain, ce qui n'empêche qu'il était anti-Boche, comme je n'ai jamais vu autant d'anti-Boche. Et à la Libération, comme tous les Français, il nous a emmené toute l'école à applaudir le général de Gaulle. Alors aujourd'hui, on vient expliquer à ces gosses hein, que c'est la faute à pas de chance, c'est la faute à Touvier s'ils n'ont pas de boulot, c'est la faute aux collabos. Mais les collabos aujourd'hui, ce sont ceux qui ouvrent les frontières, ce sont ceux qui préfèrent que le peuple de France crève, que la jeunesse de France n'ait pas de travail. C'est ça les collabos aujourd'hui. Lorsque M. Pasqua, dont parlait notre ami, en voulait terroriser les terroristes, je ne sais pas qui l'a terrorisé, il n'a pas terrorisé grand-chose jusqu'à présent, mais il a quand même donné les ordres aux préfets pour que soient recensés dans tout le pays les emplacements où sont ou seront peut-être demain construits les camps d'accueil pour tous les réfugiés d'Algérie si le fils prend le pouvoir là-bas. Alors on nous dit, mais le fils tue. Oui, le fils tue en Algérie. Il tue qui, le fils? Il tue des gens du FLN. Et ces gens du FLN sont arrivés au pouvoir comment? En tuant de braves citoyens algériens qui ne leur demandaient rien et qui, pour la plupart, voulaient vivre sous le drapeau tricolore. Alors aujourd'hui, il paraît que les filles veulent s'émanciper en Algérie. Quand nous, nous l'avons dit au 13 mai, on nous a raconté que c'était de la blague, qu'on avait amené les musulmans mitraillettes dans le dos pour manifester pour la France. Eh bien aujourd'hui, nous payons toutes ces histoires. Et c'est pour ça que souvent je dis à des gens qui disent « Mais Roger, il faut pas vivre avec le passé », je ne vis pas avec le passé. En m'occupant de formation de jeunes, en m'occupant de tout ce que je fais, je vais vers l'avenir. Mais je dis que je ne me bats pas pour me venger, mais je me bats pour qu'on demande des comptes à un certain nombre de personnes, et je crois que si nous avons la chance de triompher, eh bien dans l'honneur, hein, et la légalité, nous demanderons des comptes à ceux qui ont trahi la France hier et qui continuent à la trahir aujourd'hui.
Merci Roger. Ben, je crois que voilà, c'était, il y a pas mal de précisions qui ont été apportées et ça fait du bien d'entendre ça. Bernard, on va en parler. Bernard, tu prépares une grande manifestation, enfin deux manifestations, une façon de parler. Une réunion d'amitié française le 10 avril à la Mutualité, et puis un pèlerinage à Reims. Alors, je voudrais que tu nous parles rapidement des deux.
Alors, s'il te plaît, juste un dernier point pour les auditeurs qui entendent. Je leur demande encore une fois de lire, bon, elle vaut ce qu'elle vaut, cette lettre au général Barak, parce qu'on ne peut pas laisser passer ce qu'il a dit, qu'il l'envoie à toutes leurs relations militaires et qu'ils écrivent à nos ministres une fois les pas. Je voudrais parler un dernier point avant de parler de l'amitié française. Aujourd'hui, dans le général Barat qui parle des voitures piégées. Moi, les voitures piégées, je les connais comme Roger. J'ai vu au Liban ce que ça donnait. Des milliers de chrétiens sont morts au Liban. Les voitures, elles n'étaient pas piégées par l'armée française. Les voitures, elles étaient piégées par les Syriens. Elles étaient piégées probablement par les Israéliens qui font cause commune au Liban pour se dépecer ce pays. Et lorsque ils parlent des centaines de milliers de morts, enfin, demain, ça sera 1 million, 2 millions, 4 millions. On connaît ce drôle de révisionnisme-là. Bon, donc, il fallait réagir. Mais il y a un événement plus grave aujourd'hui, c'est qu'au Liban, qui m'est particulièrement cher, on a arrêté mon ami Fouad Malek, qu'on a connu à Paris, qui est de nationalité française, qui est un homme, qui est un officier formé en France. Fouad Malek a été arrêté comme étant soi-disant le responsable de la bombe qui a sauté à Jounieh. Quand on connaît Fouad Malek, qui est essentiellement un diplomate, dont c'est un tout petit peu comme s'il y avait une bombe à Saint-Nicolas du Chardonnay et qu'on arrête Serge de Bekech pour avoir placé cette bombe. En réalité, donc, la mainmise syrienne sur le Liban continue. Et là, je n'entends plus réagir messieurs Léotard et de Villiers, qui sont, je vous le rappelle, des Libanais. Parce qu'enfin, je voudrais rappeler ceci, c'est que lorsqu'il y a eu l'affaire du général Aoun, bon, moi j'étais au Liban à cette époque-là, pas 24 heures, j'y ai fait 17 jours, mais on a vu arriver messieurs Léotard et de Villiers. Ils ont pris la nationalité libanaise. Ils sont restés là-bas à Baabda 24 heures, ils ont pris des décorations aussi, ni Roger ni moi nous voulons de ce style de décoration, moi je n'en ai aucune parce que je n'en mérite aucune, mais enfin ils se sont fait décorer du cordon du Grand Cèdre, j'ai dit à Aoun, gardez-vous votre décoration, ils ont pris la nationalité libanaise. Et que font-ils aujourd'hui alors que le monsieur Hariri, qui est le financier de monsieur Chirac, parmi d'autres, établit une loi islamique de fer sur le Liban, parce qu'en ce moment c'est l'islamisation forcenée du Liban, et Fouad Malek est arrêté, la télévision des forces libanaises, c'était la dernière carte de la résistance chrétienne, voilà. Alors je voulais rappeler ceci, et j'en viens à l'amitié française. L'amitié française, ça sera dimanche, elle est précédée d'ailleurs par une journée de formation
dimanche
des cadres de la GRIF, ça sera dimanche en 8, le dimanche 10 avril. À partir de 10h30, on connaît, ce sont les stands, les signatures habituelles, les écrivains amis, le matin, sous la présidence de notre cher ami Maître Biaggi, et c'est toi, Serge, tu ouvres le feu, les conférenciers, bon, on change un tout petit peu chaque année, il y a certains que l'on a vus, traditionnellement, d'autres nouveaux invités, etc. Ça sera terminé le soir, donc par le discours de Jean-Marie Le Pen. On peut s'inscrire surtout pour le déjeuner, il y a encore des places, je sais que c'est cher, j'ai bien conscience de cela, la mutualité nous impose des prix incroyables, alors on sait que les gens vont aller dîner dans les bistrots à côté, il y aura des sandwichs, etc., mais c'est vrai que pour le déjeuner, 230 francs, je suis moi-même très conscient. Alors ceux qui peuvent s'offrir ce déjeuner, je leur demande de s'inscrire, c'est très bien, mais ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un déjeuner à 230 francs, ou ceux qui préfèrent acheter des livres, ce qui est très bien aussi, qu'ils le fassent. Mais enfin, voilà, il y a des places pour le déjeuner. On peut s'inscrire au Centre Charlier, donc en téléphonant, 70 boulevard Saint-Germain, on peut donc téléphoner, mais j'ai perdu le téléphone, je le donnerai, voilà, 40 51 74 07. Je rappelle donc le numéro du Centre Charlier, 40 51 74 07. Voilà pour ce qui est de l'amitié française, je pense que ça sera une très belle journée, elle est sous le signe de la reconquête, parce que nous avons ouvert nos journées d'amitié française sous le signe de la lutte contre le génocide français. Il y a 15 ans, la droite nationale était dans sa traversée du désert. Je crois que l'amitié française a marqué le mouvement national. Le mouvement national, c'est le Front National, cuirassé de bataille, et puis ensuite toutes les autres initiatives, donc soit fédérées au Front National, soit indépendantes, comme celles que je mène, telles que la GRIF, Radio Courtoisie, que sais-je encore, le Libre Journal présent, mais l'amitié française, c'est tout cela. C'est aussi le fait de se retrouver, nous invitons, s'ils veulent venir, ils viennent, des voisins, avec lesquels nous ne sommes pas toujours d'accord sur tout, mais c'est heureux, je le dis aussi, il faut savoir comprendre que nous sommes dans un camp et que nous avons nos différences, quelquefois nos divergences, mais j'accepte bien volontiers, ils seront là, il y aura notre ami Sidos, il y aura nos amis de la Restauration Nationale, les légitimistes, etc., c'est ce que j'appelle les voisins, on est en bonne compagnie et on est surtout en bonne compagnie française pour faire face au génocide qui ne cesse de s'amplifier, parce que
là, on ne sait pas combien de temps. Moi, je vois partir la France, je le dis dramatiquement. Je suis dans une province, parce que les Parisiens qui m'écoutent, je voudrais qu'ils comprennent la situation où nous sommes quelquefois en province. Moi, c'est Toulouse, c'est Midi-Pyrénées. Jean-Marie Le Pen est venu dernièrement. Il n'a pas eu une ligne, c'est unité en France, dans la presse locale, la Dépêche du Midi, l'Empire Baïdé. Pas une seconde à la télévision. Moi, je me bats là-bas, en fantassin, avec des tracts. Et l'autre jour, je menais ma bataille de fantassin. Je n'ai pas eu une ligne dans la presse. Je n'ai pas eu une minute à la télévision depuis 3 ans. On ne m'invite que le soir des élections, c'est-à-dire quand l'élection est passée. Ça me permet de rappeler ce que je dis là. Et alors, je cite cela parce que l'autre jour, j'ai vu dans les rues de Toulouse des groupes d'Africains. Par 20, par 30, ils marchaient. Je les ai suivis. Ils allaient devant l'église de la Fourlette, un petit quartier de Toulouse, pour la prière du vendredi. C'était des centaines d'Africains musulmans. Et puis je vois les boîtes à lettres. Et puis je vois surtout que le drapeau français disparaît. Alors nous n'avons plus d'expression française à Toulouse. La capitale de la région, telle que la veut M. Baudis, c'est Barcelone. Il parle d'un passage de Toulouse, de grandes villes juives, espagnoles et arabes. J'ai rien contre les juifs, les espagnols et les arabes. Mais s'ils sont à Toulouse, je voudrais que ce soit des Français. Donc je vois ma France qui fout le camp. Alors c'est vrai qu'il y a les réalités de la banlieue parisienne, mais au moins il y a Radio Courtoisie. Je suis dans une province où je n'ai que les tracts que présente tous les jours, que les tracts dans la boîte à lettres. Vous voilà pourquoi cette amitié française, à Paris comme en province, elle est nécessaire. Le second point, pardon Serge, c'est la seconde question. Non, il ne s'agit pas pour Reims d'un pèlerinage. J'ai été l'initiateur du pèlerinage de Chartres. Il y en a deux aujourd'hui. Je pensais que le moment était venu qu'ils se retrouvent au moins dans une unité spirituelle. Je ne vais pas demander une fusion, on ne peut plus d'ailleurs. C'est trop... Bon, c'est une idée qui fait son chemin, je l'espère, au moins chez les pèlerins. Mais moi, c'est un autre projet qui n'a rien à voir. Ça n'est pas... C'est que cette France que je sens glisser entre nos doigts, elle a été conçue il y a 15 siècles. Bon, la conception de la France, c'est il y a 15 siècles. Elle n'était pas née encore, elle était à l'état embryonnaire, mais elle s'est développée après le baptême de Clovis. Et je voudrais que pour le 1500e centenaire, toutes tendances confondues, nous soyons tous à Reims. C'est ce que le Centre Charlier prépare. Un rassemblement de piété nationale. Les uns y donneront plus spécifiquement un caractère religieux. Ils iront s'ils veulent à pied en récitant le chapelet. Et je n'ai rien contre et j'ai même tout pour. Mais d'autres iront pour affirmer tout simplement que c'est la France de Clovis. Et donc, ce que nous préparons, je ne le dévoile pas ce soir, vous pensez bien, parce que nous avons 18 mois de travail et nous devons prendre les conseils de nos amis, d'artistes, que Saint-Jean-Cœur, mais nous allons nous retrouver à l'Ascension, à Reims, donc, ou dans la campagne de Reims, parce que nous n'avons pas encore travaillé concrètement, il faut savoir où le rassemblement, dans quelles conditions, mais je voudrais là que tout ce qui se sent français, que tout ce qui se sent chrétien, se retrouve l'espace d'une journée pour que cette France, on ne puisse pas dire que le cycle est fini 15 siècles après, parce que les individus meurent, mais moi je crois que les nations peuvent durer, elles peuvent même traverser plusieurs civilisations. La nation française, en tout cas, donc a connu des époques terribles, elle a connu des déchirements, des guerres civiles, mais aujourd'hui elle est menacée de mort. Et donc, si on n'a pas cette idée permanente en nous-mêmes, hein, que nous sommes en proie au génocide, donc je pense que nous ne mènerons pas bien le combat. Parce que si nous avons cette idée poignante que la France nous file entre les doigts, alors à ce moment-là, comment est-il acceptable qu'on puisse se quereller si on a telle conception par rapport au régime, par rapport, etc., des tas de choses importantes dans leur ordre, mais aujourd'hui, il s'agit de la survie du pays. Voilà le pourquoi de Reims.
Donc on aura l'occasion d'en reparler.
Oui.
Roger, je voudrais que tu nous dises un mot rapidement, s'il te plaît. Je suis désolé, mais on commence à être bousculé par le temps, comme tous les mercredis.
Oui, enfin... Bon, parce que je voudrais quand même amener un complément à ce que vient de dire Bernard, si c'est nécessaire, parce qu'avec tout ce qu'on a dit ce soir, je pense que nos amis, quand même, commencent à ouvrir les yeux. Mais lorsque j'avais déclaré ici, pour la première fois, voici 3 mois environ, qu'ils s'attendaient à l'arrivée massive d'intellectuels du FLN, à l'heure actuelle, ça n'est pas le départ massif d'Algérie, mais c'est un ruisseau qui tend déjà aujourd'hui à devenir une rivière. Et lorsque je lis notre presse, et tous les jours la revue de presse très bien faite du Front National que nous envoie Fraisse, je trouve beaucoup, beaucoup d'informations. Et Fraisse qui a l'œil, je jetais des journaux. Chaque fois, je regarde si j'ai rien oublié, et je vois dans un coin d'un article en haut, dans le Point, que tous les ministres en exercice en ce moment naturalisent tous les jours des Algériens. Tous les jours.
Alors, au début de l'émission.
Voilà, c'est très important. Et je voulais aussi donner, dans le contexte actuel, quand on voit où va ce pays, hein, dans une école, c'est à Épernon, voici ce que le professeur de chant apprend et fait chanter à ses élèves de 8, 12 et 14 ans. Émigré, reste là, t'en vas pas. Maintenant que tu es installé, mon vieux, tu es chez toi, chez moi. Ceux qui t'insultent, c'est le genre de Français qui trouvaient les nazis sympathiques et polis. À force d'avoir le nez collé à la télé, ils ont dû attraper le rhume de cerveau. Et il y en a sept ou huit couplets comme ça que je vous donne pour faire paraître dans vos journaux. Alors, hier, j'ai fait paraître aussi un papier sur les grandes manœuvres du Cercle National des Combattants. On reste entre soldats. Je ne vais pas lire tout le détail, mais je vais donner les principales dates en demandant à Radio Courtoisie de pouvoir revenir une autre fois pour en parler. Pour tous les adhérents et sympathisants, enfin adhérents en carte du CNC, le samedi 16 et 17 avril 94 au château, à la maison mère du CNC, il y a le congrès annuel. Et surtout à Fréjus, le samedi 14 mai 94, il y a une grande cérémonie du souvenir avec un discours de moi devant le mausolée, un grand discours de Jean-Marie Le Pen après le banquet que nous espérons, que nous appelons le banquet des 1000, et où nous espérons avoir 1000 personnes. Et on espère que beaucoup de drapeaux et beaucoup de gens viendront de toute la France. C'est quand même un truc annuel maintenant que nous faisons pour les soldats qui sont tombés en Indochine. À Neuville, le dimanche 19 juin 1994, de 8h30 à 20h, la grande fête annuelle familiale et champêtre du CNC sous la présidence de Jean-Marie Le Pen. Et à Neuville, le 31 juillet 1994, à partir de 10h, grande fête du triomphe des cadets de France et d'Europe, baptême de la promotion commandant Cabirot, héros de l'armée française. Et tout ça sera suivi par un grand banquet en plein air.
Bon, on en parlera de toutes ces réunions.
Est-ce que je peux poser une question à Monsieur Anthony? La lettre au général Ehud Barak dont vous avez parlé, elle est bien publiée dans le présent.
Dans le présent qui est sorti cet après-midi.
Du jeudi 31 mars, parce que plusieurs auditeurs le demandent.
Donc, du jeudi 31 mars.
Jeudi 31 mars.
Qui est en vente. Oui, c'est ça. Qui est en vente.
Non, je crois que c'est daté.
Non, daté du jeudi.
C'est jeudi 31 mars.
Voilà. C'est toute la
story. Oui, mais nous sommes mercredi, oui, pardon.
Quotidien du soir, voilà. Eh bien, messieurs, merci. Qu'est-ce que
Alors, je voudrais simplement ajouter, parce que j'ai oublié, c'est que le livre, effectivement, qui va paraître aux éditions de présent, Combat pour mon pays, dont il sera dans 72 heures au Centre Charlier. On peut se le procurer, soit en passant l'acheter au centre. Il sera évidemment signé à la mutualité lors de l'amitié française du 10 avril, mais on peut aussi le commander 110 francs plus 20 francs pour frais de port, donc et d'emballage.
Merci. On va changer complètement de sujet puisque je reçois Marie-Josée de Bravora. Alors, Marie-Josée considère que le terme est mis à son vagabondage dans les multiples raisons qu'on avait de se réjouir, et elle va revenir à ses premières amours qui sont l'explication de l'art.
Est-ce que je peux vous contredire?
Oui, vous pouvez, oui.
Ah ben alors ça c'est très gentil à vous, parce que je trouve pas du tout qu'on change de sujet. Ça fait des années que je suis en train d'essayer d'expliquer aux miens que c'est par l'art que la gauche nous a pris, et que c'est par l'art qu'on doit reprendre du terrain, et apparemment, mon pauvre Serge...
J'ai pas compris ça.
Vous non plus.
Alors donc, on va pas changer de sujet, mais on va changer de façon de l'aborder, et on va donc faire un pli musical.
Sur la parole, il ne faut pas juger, malgré mon air un peu léger, je ne suis pas une femme légère. Et je vous garantis que mon époux n'aura pas lieu jaloux, c'est à lui seul que je veux plaire. Qui n'aimera que son mari? C'est Rosalie, c'est Rosalie. Son beau petit mari chéri, c'est Rosalie, c'est Rosalie.
Qui sera son gros chasson, c'est son petit chapichou. À lui seul, elle sera toujours fidèle et partout me suivra comme un toutou.
Et qui n'aimera que son mari, c'est Rosalie, c'est Rosalie. Il en est qui déjà veulent compter sur mon manque de fidélité. Pour cela, n'est-ce sur le reste. C'est inutile de me tourner autour, jamais je n'aurai d'autre amour, pas même une petite amourette. Qui suivra son petit mari? C'est Rosalie, c'est Rosalie. Pendant ces temps en Algérie, c'est Rosalie, c'est Rosalie.
Qui sera son gros chat, son gros chou, c'est son petit chapichou. Qui le suivra partout jusqu'à Tizi Ouzou et même à Tombouctou.
Et qui sera toujours derrière lui? C'est Rosalie, c'est Rosalie.
Ça fait du bien, c'est Monique Baer et Bach, ou Bach et Baer. C'était en 1938. 1934. T'étais pas née, ma pauvre Vicky.
Mais si, j'écoutais ça et j'étais dans le ravissement.
Vous nous faire croire qu'en 34, elle écoutait la musique.
D'abord, il fallait aller au Music Hall pour entendre ça.
Le disque n'existait pas. Mais si, ah bon, je voulais remonter avec
le disque existait en 34. Incroyable. Tout ça ne nous rajeunit pas.
Et non.
Bernard, tu te souviens de 1934?
Absolument. J'étais là, j'ai plusieurs siècles depuis, tu sais, sur moi.
Oui, je sais, c'est pour ça que je t'en parle.
Je suis un fils de la mémoire, et donc...
J'ai eu peur quand vous avez dit un fils.
Quelques siècles, et donc je me souviens de 34, et effectivement,
c'était
j'y étais.
Terrible. J'étais. Et donc, ma chère Marie-Josée de Bravoura,
oui, mon cher Serge,
je vous ai demandé... Voilà, moi, après tout, cette émission, c'est la mienne, hein, donc je fais ce que je veux. Et je dois dire qu'il y a une chose qui continue à me travailler en dépit que les années passent, c'est cette question. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre d'art est une œuvre d'art et que la même chose est pas une œuvre, enfin que quelque chose qui ressemble n'est pas une œuvre d'art? Qu'est-ce qui fait qu'un artiste est un génie et qu'un autre est un ringard? Et je dois dire que le mystère devient particulièrement épais, c'est un mystère presque métaphysique, quand on arrive à un personnage comme Picasso, par exemple. Alors, parce que Picasso, d'abord, si on se tourne vers l'un, il vous dit, mais Picasso est le plus grand génie de la peinture de tous les temps. Vous tournez vers l'autre qui vous dit, Picasso, c'est un imposteur et un nul. Troisième personne vous dira, ben, c'était tantôt l'un, tantôt l'autre. Alors, au fond... J'ai demandé à Marie-Josée de venir nous dire, elle qui est une artiste et donc qui sait de quoi elle parle, qui en plus est une artiste politique, c'est-à-dire une artiste qui a la tête politique, qui a l'habitude de réfléchir et d'approfondir sa réflexion. J'ai demandé de venir nous dire, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un artiste et de prendre chaque mois un artiste plasticien, je crois qu'en général on se limitera à ça, et de nous dire pourquoi c'est un artiste. Alors naturellement, on a décidé de commencer par le plus évident ou le plus intrigant, c'est-à-dire le nom que je viens de citer, Picasso. Est-ce que Picasso était vraiment un génie? Est-ce que c'est un artiste? Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire de Picasso sans passer pour un imbécile?
Je vais être obligé de répondre au début en normand et très vite plus du tout. Ça veut dire que dans un artiste, vous avez posé la bonne question, qu'est-ce qui fait qu'un artiste est un artiste? Bon, il y a deux choses, et ça on le dit trop peu souvent. Ou un artiste est un artiste et un très grand génie par son œuvre, il peut être aussi un artiste, un très grand artiste par sa démarche. Picasso, d'un côté, a été vraiment un très grand artiste et un génie parce qu'il a été le premier Donc après lui, il a ouvert la voie à énormément d'autres artistes. Il a été le premier, un, à prouver à une époque où ça ne se faisait pas, qu'un artiste avait le droit de créer, ça veut dire de se renouveler dans le meilleur des cas pendant toute sa vie. Il a fait des choses différentes, ça c'est important, c'est la base d'un artiste, c'est de faire du nouveau et de créer, sinon il n'est pas un artiste. Encore une fois, pour Henri de Lesquin, s'il écoute, le nouveau n'est pas suffisant. Mais il est nécessaire et indispensable.
Henri de Lesquin, c'est pas un ami, c'est le président, le secrétaire du Club de l'Horloge.
Oh oui, je crois même, oui, un peu.
Président.
Il est tout. Il est président fondateur.
Il faut qu'on l'invite.
Non, il est président, il n'est pas fondateur.
J'ai invité
le fondateur, c'est mon ami Yvan Blot.
Ah, il était avec Henri de Lesquin, non, pour le fonder.
Il est avec mes amis,
bon.
Henri de Lesquin, c'est le président, mais vous voyez, moi je pense que c'est Yvan Blot. Hein.
Alors ce qui chagrine beaucoup Henri de Lesquin, c'est cette obligation de nouveauté. Parce qu'au nom de la nouveauté, effectivement, on a fait passer n'importe quoi, n'importe comment. Mais à la base, qui dit artiste dit créer, qui dit créer dit faire du nouveau, sinon on ne crée pas, on reproduit, on est un artisan. Donc pour Picasso, il a eu une démarche extrêmement créative, puisque avant Picasso, un artiste se croyait et était obligé socialement de faire la même chose ou à peu près le même type de choses pour se faire un nom. Avec Picasso, il a donné l'autorisation à tous les artistes de se renouveler, ce qui est une très bonne chose. Deuxième chose, Picasso savait faire du figuratif avant de faire de l'abscon. Parce que lui aussi a fait de l'abscon, vous savez, il faut le répéter aux auditeurs, mais le terme abscon est un terme non pas grossier, mais un terme scientifique.
Je crois que nos auditeurs le savent.
N'est-ce pas? Pour dénoncer d'ailleurs tout cet art officiel abstrait qui ne veut rien dire. Or Picasso savait faire les deux. Mais lorsqu'il faisait du figuratif, ce qui plaît énormément à pas mal d'auditeurs par rapport à l'œuvre de Picasso, je suis désolé de dire que lorsqu'il faisait du figuratif, il n'était pas très bon. Ça veut dire que si on reprenait les dessins de Picasso de la période bleue et rose, sans la signature de Picasso qui a fait scandale avec les horreurs, personne ne penserait à l'admirer.
Alors justement, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire que quand il fait des choses classiques, c'est pas formidable.
Non, c'est moyen.
Et quand il fait des choses novatrices, c'est carrément horrible.
Alors, dans les choses novatrices, il a quand même fait aussi quelque chose qui est positif. C'est qu'il était le premier, encore une fois, à casser la réalité. Mais normalement, quand on casse, dans le meilleur des cas, c'est pour reconstruire. Et lui a oublié de reconstruire. Si vous vous rappelez, on a eu à Radio Courtoisie Jean Monneret qui s'occupait de l'exposition superbe, n'est-ce pas, des gros Botero. Et lorsque j'ai dit que son amour de Picasso avait cassé mais jamais reconstruit, donc il était à la base politique de tout ce qui a fait la démolition des têtes des Français, aussi bien dans la musique que dans la peinture, etc., Picasso n'a pas reconstruit. Alors là, Jean Monneret nous avait donné une explication, je reconnais que je la donne à tous les auditeurs. Il m'a dit que quand on embrassait quelqu'un, la figure se déformait très exactement comme un Picasso. Ça, je jure que chaque fois que j'ai embrassé quelqu'un sur la bouche, je n'ai pas pensé à regarder. Donc ça, c'est encore une chose qui est à prouver. Donc ça veut dire que Picasso, à un moment donné,
est encore figuratif,
a cassé mais n'a jamais reconstruit. Ensuite, il ne faut pas quand même oublier de dire que Picasso, que j'ai connu, parce que Picasso n'a pas beaucoup créé, il a fait beaucoup, mais il a beaucoup emprunté, puisque c'est le terme actuel pour certaines choses. Donc il a beaucoup emprunté. Et quand Picasso a emprunté à l'art africain, je suis désolé, les nègres font un art infiniment plus beau lorsqu'ils font des chèvres que les chèvres de M. Picasso. Ça veut dire que lui a fait moins bien que les Japonais. Les Japonais ont pris et amélioré, Picasso a pris et a fait moins bien. Quand on connaît à peu près tout... Moi j'avais une amie qui avait des noyaux sculptés camerounais de toute beauté, Picasso a fait le siège et ce soir-là nous a dit « Je vais tellement créer de choses qu'après ma mort, ma cote tombera ». Alors là, il prouve qu'il n'est pas très intelligent parce qu'on en a gardé pas mal. Et comme ça, sur le marché, sa cote n'est pas tombée. Tout ça, si je le dis, c'est parce que c'est faux qu'un enfant de 4 ans puisse faire un Picasso. Il ne faut pas laisser les gens dire ça. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Mais en même temps, il s'est arrêté en cours de route. Pourquoi ? Il ne faut pas oublier, vous avez demandé ce qu'il fallait pour qu'un artiste devienne un grand artiste. Depuis 50 ans, la meilleure des choses, c'est d'avoir sa carte au Parti communiste, il faut quand même le dire.
On en revient toujours
à la même chose. Ça veut dire, moi, on m'a même dit, des gens, des politiques de droite, m'ont réellement, si ça existe, m'ont même dit, mais madame, il n'y a pas d'artiste de droite. Ah ben j'ai dit, alors c'est très ennuyeux pour moi parce que je vais être obligé absolument de revoir mon problème de profession. Ouais. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, c'est tellement récupéré, mais c'est voulu. Ça veut dire qu'une autre fois, on parlera certainement de Matisse. N'est-ce pas, que vous avez tellement aimé. Et Picasso a été le premier démolisseur de crâne, il a montré le chemin. Et ça n'est pas pour rien si on l'a encensé, si on en a fait un génie. Parce que maintenant, on va vous fourguer que des gens qui seront un petit peu moins pires que Picasso. Ça, ça ne doit pas être très bien français, mais ça fait bien comprendre. Et vous allez crier que c'est magnifique, ce que vous avez fait pour Matisse.
Voilà. Bernard, un commentaire ?
Ah ben oui, j'aurais à faire. J'ai tout avec plaisir, mais je pense que pour ce qui est de Picasso, on peut l'expliquer, je le connais moins bien que la personne qui vient de parler, mais enfin, je sais qu'il a contemplé le taureau des grottes de Lascaux. Et là, il s'est dit, je ne ferai jamais mieux. Et dans ses confidences à Giovanni Papini, il exprime en quelque sorte sa haine de cet état de choses, parce que comme elle dit, il a des talents, c'est évident, mais il n'est pas un très grand dessinateur.
Non.
Et à ce moment-là, il va passer à la troisième forme de l'art, ou plutôt il va passer à l'opposé de l'art. Parce que dans l'art, il y a trois grands degrés. Il y a l'art qui est la création, qui relève de la création. Et ça, je pourrais développer, c'est l'art homérique. Hein, c'est la poésie au sens étymologique du mot, c'est-à-dire qui provient d'une vision intérieure. L'artiste est celui qui voit des rapports entre les choses que les autres ne voient pas, mais il ne fait par son abstraction qu'exprimer le réel. Tout art est un art abstrait. Tout art abstrait, en quelque sorte, tout art exprime. Alors Picasso, lui, il ne fait pas de la création. Il ne fait pas non plus de la récréation. C'est un homme de haine qui va faire de la décréation.
Mais vous savez qu'il l'a dit.
Il va piétiner, il va tordre les formes. L'art de Picasso est proprement satanique. Mais c'est la haine de la création.
Et vous savez qu'il l'a dit, parce qu'il y a eu un crapouillot sur Picasso, où on a repris une interview de Picasso, où il disait « je ne suis pas un artiste ». Lui le savait très bien. D'ailleurs, je pourrais les citer ici, mais mes jours seraient en danger.
C'est pas l'artiste,
à peu
c'est
près
un terroriste.
Deux ou trois grands artistes reconnus dans les contemporains qui m'ont dit à moi « nous, ce qu'on aime, c'est le pognon ». C'est tout. Et on les voit là, dans les 10 premières pages de tous les manuels d'art.
Oui. On peut pas citer les noms. Parce
non,
que...
on ne peut pas. En tout cas, moi, je ne veux pas. Je ne m'appelle pas Yann Piaf. Et je n'ai aucune tendance suicidaire.
Merci, José. La prochaine fois, Matisse.
La prochaine fois, Matisse, on prendra peut-être. J'avais envie de parler d'Arnaud Brecker. Vous voulez bien?
Ah, ben, je veux bien, oui. Puisqu'on en est à la provocation.
Et pourriez-vous parler un jour de Bernard Boots?
Eh ben.
Ah, nous, on veut tout le monde.
Je viendrai vous en parler.
Alors, vous viendrez.
L'élève d'André Charlier, qui a peint dedans. Ah oui.
Moi, je voudrais bien qu'on parle de Mathieu, pour qui j'ai beaucoup
absolument.
De passion.
Oh voilà. Oui, on va parler de Mathieu. Oui, on va parler de Mathieu.
Voilà. Mais enfin, ma passion n'est pas un critère de valeur, puisque comme je l'ai déjà dit, je n'y connais rien. Oui, ma chère Victoria.
Avant les annonces, je voudrais dire les noms des quatre. Candidats qui ont été élus les trois candidats qui ont été élus au cantonal, donc Marie-France Tirebois dans le Eure-et-Loir, Madame de la Brosse dans le Var et Monsieur Laura Chinel dans les Côtes d'Armor, je crois.
C'est en Normandie.
En Normandie, mais je ne sais pas le département.
Dans l'Orne.
Dans l'Orne, bien.
Oui, c'est un bon
et puis aussi, un auditeur qui sait tout nous dit que c'est en 756 que Pépin le Bref a vaincu les Lombards.
756. Les ennuis, si je comprends bien ce que nous expliquait tout à l'heure Monsieur Paterno, les ennuis de l'Église datent de 756.
Non, ça a commencé avec une petite faute de Madame Ève.
Ah oui, c'est ça, oui, c'est encore plus ancien que ça. Bien, merci. Alors, un auditeur dit, c'est pas du tout Picasso qui est l'inventeur de l'art moderne, c'est Kandinsky.
Et puis,
d'ailleurs, on n'a pas dit qu'il était l'inventeur de l'art moderne.
Non, je crois
jamais.
Les auditeurs auraient aimé aussi que vous leur parliez des droites en Italie, mais là, je pense que le temps.
Mais alors, je dois dire que moi, je n'ai pas étudié cette question, et exceptionnellement, ce soir, j'ai décidé de faire comme Bernard Anthony, c'est-à-dire de ne pas parler des choses que je ne connais pas. Et vraiment, alors, je n'y comprends pas grand-chose à ce qui se passe en Italie. Je n'ai pas d'opinion sur Berlusconi. Et puis, à vrai dire, moi, l'Italie m'intéresse surtout pour aller en Toscane ou à Venise. Parce que j'ai l'impression que ça n'est jamais qu'une extension de la France.
Apparemment, ils sont comme nous, ils ont des étiquettes qui ne recouvrent rien, non ?
Voilà, c'est ça.
Ah, c'est exactement. Bon, enfin, quand même, on peut se féliciter de la victoire du mouvement social italien, je le fais ici. Oui. Je suis très heureux que Gianfranco Fini ait pu faire élire 115 députés de la droite italienne. Je voudrais pour autant qu'il reste fidèle donc à ce qui lui a permis d'éclore, c'est-à-dire l'héritage de mon vieil ami Giorgio Almirante, qui était un très grand homme. Voilà, mais je n'ai pas le temps ce soir.
Alors, parmi les annonces, pour finir, conformément à la tradition, je rappelle donc que le dimanche 10 avril 1994 aura lieu la 14e journée nationale d'amitié française à Paris, au Palais de la Mutualité, 24 rue Saint-Victor. Le thème, c'est la France, nation submergée, la nécessaire reconquête.
Et bon, bah, les orateurs, je dirais.
Le matin, président de Maître Biaggi, et c'est voilà. Serge de Bettech qui ouvre le feu.
Eh ben, dites donc. Donc vous pouvez venir l'après-midi, vous êtes tranquille, vous ne m'entendrez pas.
Alain Vanzo, c'est tout à fait différent. Hein. Alain Vanzo de l'Opéra ouvre un cours de chant en studio, salle Gaveau, rue de la Boétie, dans le 8e, à partir du 1er mars. Pause et technique de la voix, air du répertoire. Et vous pouvez vous prendre rendez-vous au 43 05 05 47.
Ça, je voudrais dire, c'est une des activités de l'ADAC. Alors, on avait reçu M. Balagna, le patron de l'ADAC. C'est les ateliers d'expression culturelle et de voisinage, l'ADAC. C'est une association qui dépend de la mairie de Paris, mais qui fait un travail magnifique. Hein. Je vais réinviter M. Balagna, j'espère qu'il acceptera de venir, parce que vraiment, ils font du très beau boulot. Et le fait d'avoir Alain Vanzo comme prof de chant, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est tout à fait exceptionnel. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de villes au monde qui puissent se permettre d'avoir des chanteurs de cette qualité, des virtuoses de cette qualité, pour enseigner la pose de la voix et les techniques de la voix à des amateurs. Donc c'est pour ça que j'insiste un peu, on en a déjà parlé, j'en reparle. Je signale que nos amis de Renaissance catholique viennent de publier, avec le soutien de la Cité Vivante, un dépliant sur l'utilisation du nouveau code pénal dans la lutte contre la pornographie. Ça me paraît capital de se le procurer, car véritablement cette affaire sème la panique dans les rangs des pourrisseurs, et ça serait de la folie de ne pas l'utiliser, ce nouveau code pénal, dans sa partie où il nous est la plus favorable, c'est-à-dire la fameuse article 227-24. Donc il faut absolument se procurer ce dépliant qui explique très précisément comment on peut faire pour utiliser le code pénal, pour emmerduiller les pourrisseurs. Vous pouvez vous procurer ce dépliant à Renaissance catholique, 89 rue Pierre Brossolette, 92-130, ici les Moulineaux. Puisque je parle de Renaissance catholique, je signale que c'est sous l'égide de Renaissance catholique que notre ami et collaborateur Daniel Raffard de Brienne donne le jeudi 7 avril 1994 à 20h30 une conférence, La vérité sur les manuels scolaires. Ça se passe à la mairie Carré des Mousquetaires, 13 avenue Simon Vouet, à Port-Marly. Je rappelle, jeudi 7 avril 1994 à 20h30.
Et dans un tout autre ordre d'idées, pour rester dans la frivolité, du 8 mars au 16 avril, à l'espace GEMAP, 116 quai de GEMAP dans le 10e, l'affaire de la rue de l'Oursine, comédie en un acte et huit tableaux de Eugène Labiche. Du mardi au samedi à 21h, le dimanche à 15h, relâche le lundi, réservation au 48 03 11 09. Prix des places 90 francs, tarif réduit 60 francs.
Ça, c'est à pas manquer. C'est encore une activité de l'ADAC. Je signale l'apparition du bulletin de Russie et des pays de l'ex-URSS. Si vous voulez comprendre quelque chose à ce qui se passe dans ce formidable pandémonium, il faut lire ça, c'est très simple. C'est une espèce de lettre, c'est ça, la présentation d'une lettre confidentielle. Bulletin de Russie et des pays de l'ex-URSS. Je vais vous donner l'adresse dès que je l'aurai retrouvée. C'est 4 avenue Benoît Frachon, 92 023 à Nanterre. 4 avenue Benoît Frachon, 92 023 Nanterre. L'abonnement annuel est de 800 francs, mais je pense que si vous demandez un spécimen, on vous le donnera volontiers.
Jean-Yves Le Gallou et les élus du Front National d'Île-de-France appellent les contribuables spoliés par le Crédit Lyonnais, 1000 francs d'impôts supplémentaires par foyer fiscal pour combler les pertes, à venir manifester leur indignation lundi 11 avril à 12h30 à Richelieu-de-Rouault.
Voilà, très bien.
Parution de Renaissance catholique, le numéro de mars avril 1994, avec l'annonce de l'université d'été, un papier sur la bioéthique, l'embryon hors la loi, un papier sur le nouveau code pénal et un papier, et puis d'autres, beaucoup d'autres papiers. Je signale également la parution de Reconquête, que j'avais sous les yeux, mais que Bernard Anthony vient de me confisquer, ce qui est quand même un comble.
Non.
Ce qui est un comble, mon cher Bernard, car tu en es le...
Non, c'est Jacques Houbard, qui travaille avec toi, qui s'en est emparé.
Bon, c'est pareil. Je signale également la parution, très intéressant, la lettre aux amis et bienfaiteurs de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X, le numéro 46, publie trois témoignages de prêtres sur ce qui se passe dans les anciens pays de l'Est. Et bah, il faut les lire. C'est excellemment présenté. C'est du travail. Vous savez, ça fait penser aux lettres que... à cette documentation extraordinaire que constituent les lettres des jésuites qu'on envoyait à travers le monde au XVIIIe siècle et au XVIIe siècle, qui envoyaient le récit de voyage. Alors c'est beaucoup plus court que ça, mais c'est un regard naturellement de prêtre traditionnaliste, et c'est d'autant plus intéressant, sur les pays de l'Est, les pays baltes, la Russie, etc. Numéro 46 de la lettre aux amis et bienfaiteurs, on peut se procurer ça à Saint-Nicolas, évidemment, et puis on peut s'abonner à boîte postale 125 92 154 sur NCEDEX en envoyant un peu de sous.
Les Dominicaines du Saint-Esprit vous invitent à la fête de l'institution Saint-Pidis le samedi 7 et dimanche 8 mai de 14h à 19h, où nous vous en reparlerons.
Je vous rappelle encore une fois que le 10 avril 94, c'est le jour de la Quasimodo, dimanche de la Quasimodo, c'est depuis très peu de temps le dimanche de la Miséricorde divine, à la demande du Christ à Sœur Faustine qui vient d'être béatifiée. Ce jour est consacré à la Miséricorde divine, donc il y a un grand pèlerinage qui a été organisé par Mgr Jordan, évêque de Pontoise, à Oni, le 10 avril 94, à partir de 8h45, rassemblement place Saint-Sulpice, retour à 19h, place Saint-Sulpice. Et à ce propos, je signale la parution aux éditions Ovine du petit journal de Sœur Faustine qui permet de comprendre la spiritualité de cette religieuse polonaise tout récemment béatifiée. Elle est morte, elle est née en 1905 et morte en 1938, et c'est tout à fait extraordinaire.
Et c'est du 7 au 31 juillet que le CNC organisera son grand camp d'été. C'est pareil, on vous en reparlera, mais c'est au 40 59 07 66 que vous pouvez avoir des renseignements.
Alors j'en profite pour dire que le camp d'été de Chrétienté Solidarité se tiendra en Croatie, dans une école qui était autrefois celle des jeunesses communistes, mais vous voyez, ça a changé d'affectation, donc du 2 au 10 juillet.
Donc si vous avez trop d'enfants, n'hésitez pas. Et puis, je rappelle, vite, je rappelle qu'il reste encore probablement quelques places, pardon, pour le pèlerinage, enfin la pérégrination qui du 12 au 15 mai 94 emmène les membres et les amis de l'association Credo sur les pas des chouans de Mayenne. Alors pour tout renseignement, il faut téléphoner au 39 69 73 04. 39 69 73 04. Dernière chose, les éditions du Trillon viennent de publier de très très belles éditions des Trilbies. Vous savez, les Trilbies, ce sont des livres pour la jeunesse. C'est adorable. Et puis de très très jolis albums, les aventures de Titounet et Titounette. Alors on en reparlera, parce que je demanderai à nos amis des éditions Triomphe de venir parler du deuxième anniversaire de leur entreprise. Mais en attendant, vous pouvez trouver tous les livres dont on parle, ou presque, je le rappelle, chez notre ami Monsieur Ducot, la Maison Bleue, 6 place Sainte-Opportune. Et je rappelle que je donne cette adresse parce que Monsieur Ducot, depuis son déménagement, a d'énormes difficultés avec sa librairie, et il a besoin d'être soutenu très très dynamiquement et très activement par ceux qui l'aiment bien et qui l'apprécient, et surtout qui se souviennent de Mgr Ducot-Bourget, qui était son oncle.
Ici, voilà. Radio Courtoisie, la radio...